Bonsoir à tous. On est ce soir en plus petit comité que prévu, étant donné la neige, mais ça n'en rendra que meilleure la qualité du débat et du dialogue qu'on aura avec Daniel Hurstel. Alors, je suis très heureux de le recevoir ce soir ici. Daniel Hurstel est avocat, déjà avocat d'affaires dans un grand cabinet parisien, ou en tout cas il travaille à partir de Paris, Wilkie, Farr & Gallagher. Et il est également maître de conférences à Sciences Po. Et il a, entre autres, écrit un livre qui est ici et que vous pouvez aussi vous procurer si vous le voulez. On en a quelques exemplaires, qui s'appelle « La nouvelle économie sociale pour réformer le capitalisme ». Alors, comme vous le savez, dans le cadre de notre cycle cette année, nous abordons les stratégies de responsabilisation. Donc, qui est responsable et comment est-ce qu'on peut responsabiliser les acteurs économique. Alors, on a eu plusieurs invités très intéressants, tels que François Ewald, qui nous a parlé du principe de précaution et de toutes les notions qui se cachent derrière la notion même de responsabilité. On a eu Emmanuel Tognutti, qui lui abordait plus la responsabilisation à partir de l'éthique, des codes d'éthique en entreprise, de la pratique de l'éthique en entreprise et du leadership, entre guillemets, responsable. On a eu également Arnaud Van Weyenberg qui, lui, en philosophe du droit, a abordé plus la question des marchés comme antidote au marché, entre autres avec l'exemple des marchés de droit de polluer qui sont en fait une réponse aux excès d'autres marchés. Et donc la question était de voir dans ce cas-là si les marchés peuvent aider à corriger le marché. Et aujourd'hui, donc, nous avons Daniel Hurstel qui, lui, a une approche tout à fait intéressante en tant que juriste, qui questionne fondamentalement l'objectif même des sociétés, des organisations de l'économie capitaliste et de l'économie sociale. Et tout son propos, qu'il va développer, entre autres, ce soir, c'est vraiment de voir comment on peut rapprocher, plutôt qu'opposer, l'économie sociale et l'économie capitaliste. Je voudrais, avant de lui céder la parole, juste vous lire un tout petit extrait qui me paraît assez révélateur et qui explique pourquoi aussi, même si Daniel Hurstel n'est pas philosophe, sa réflexion nous semble véritablement pertinente dans le cadre de philosophie et management. Il dit par exemple « J'écrivais plus haut que je ne crois pas à la subite transformation de l'homme. Je crois encore moins à la nécessaire transformation d'un petit nombre d'entre nous qui seraient les responsables des maux actuels. La plupart des responsables économiques n'ont pas attendu les entrepreneurs sociaux pour avoir une conscience sociale. Ils n'ont, pour la plupart d'entre eux, aucune leçon à recevoir, alors qu'on reste souvent perplexe sur la teneur de certaines de leurs actions. J'en donne dans cet ouvrage les raisons structurelles, ou des raisons structurelles qui touchent au fondement même de la société. Mais la cause vient aussi de ce qu'ils agissent dans un environnement où ils ne contrôlent qu'une faible partie des mécanismes en jeu. Leur marge de manœuvre est limitée par un environnement où tout a été fait pour que les aspérités qui font obstacle à l'attrait du profit soient effacées. » Voilà. Je pense que ça donne déjà un peu la teneur et je pense l'importance de la réflexion qu'il mène pour essayer de réformer, comme il le dit dans son sous-titre, le capitalisme. Daniel, à vous.
Merci, Laurent. Bien, bonsoir à tous. Je suis très, très content d'être ici, très content, honoré bien sûr aussi, et content d'être reçu dans une maison des optimistes. Ça ne peut qu'inviter à aller de l'avant, ce qui est indispensable aujourd'hui, et puis à pouvoir, après d'autres, passer une soirée avec vous, à discuter, à réfléchir à l'avenir de l'entreprise. Alors, je vais utiliser le terme entreprise et non pas société pour le distinguer de société civile. J'utiliserai le terme de société en parlant de la société dans laquelle nous agissons tous les jours. Et puis, je parlerai de l'entreprise, même si derrière le mot entreprise, je pense bien à l'entité juridique. Alors, je ne sais pas grand-chose de vous, vous en savez déjà beaucoup plus de moi, donc je ne sais pas bien, je ne sais même pas du tout comment ce groupe est formé et quel est votre niveau de connaissance, jusqu'à où vous avez pris oui, de connaissance des questions qu'on va aborder. Donc, je vais avancer pas par pas, je vais essayer d'observer, je vais avancer doucement et d'observer vos réactions et de manière à faire en sorte d'essayer de rendre, enfin, faire de mon mieux pour que cette soirée vous et m'apporte quelque chose.
Donc, peut-être en deux mots, je crois que les personnes qui sont ici viennent effectivement d'horizons très divers. Ils sont réunis bon, à travers les mails que nous envoyons pour inviter les personnes différentes. Je crois qu'il y a des gens qui sont très très au fait de l'économie sociale ou des changements qu'on pourrait y amener, et d'autres beaucoup moins. Donc je crois qu'effectivement on a ici un public assez varié.
Bien. Alors, moi, je suis. Donc, on va avancer, si vous voulez, ensemble, pas par pas, et puis rediriger en fonction un peu de vos réactions. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes on va dire, grâce à la neige, un groupe suffisamment petit pour quasiment, on aurait quasiment pu imaginer que nous essayions en cercle et avoir véritablement, plutôt que d'avoir un exposant et des auditeurs. Moi, je suis très intéressé aussi par vos réactions. Peut-être vous expliquer un petit peu d'où je viens, et ça expliquera, je crois, la réflexion que je conduis. Je suis avocat d'affaires, mon activité quotidienne, et je suis vraiment avocat d'affaires, c'est-à-dire je ne plaide pas, je conseille de très grandes entreprises sur des opérations assez, assez complexes en général. Donc je suis immergé dans la pointe du capitalisme qui est celle qui a le plus subi de critiques et qu'on considère assez largement comme, assez fréquemment comme la dérive du capitalisme habituel. La dérive récente du capitalisme. Les traders, enfin tout ce monde est un monde que la finance de l'entreprise est un monde que je fréquente quotidiennement. Et donc mes réflexions sont nées à la fois de cette expérience que je vais expliciter un tout petit peu et d'une rencontre intellectuelle, non pas par expérience, mais intellectuelle avec le social business. Et j'ai eu, c'est mon passage devant la statue de la Vierge de Clonel à Notre-Dame de Paris. J'ai eu, à partir du social business, j'ai vu clairement. Pas tout à fait dans le domaine du songe quand même, mais comment le capitalisme pourrait ou devrait évoluer pour redevenir un acteur dont on est fier plutôt que de tenter de le cacher. Et c'est vraiment la rencontre des deux qui est à l'origine de ce livre, vous le verrez, vous l'avez vu. Et depuis ce livre, qui a dû sortir au début de cette année, une réflexion encore beaucoup plus, peut-être plus approfondie d'un second livre qui est là à l'état de, enfin, qui est là, dont la structure est là et qui poursuit cette réflexion et qui l'élargit. C'est celle-là que je voudrais peut-être, si vous en êtes d'accord, je voudrais peut-être partager un peu mes réflexions actuelles avec vous et vous dire comment où j'en suis et qu'on échange sur cela. Pour revenir un instant encore au premier point sur mon expérience, j'ai eu une expérience intéressante récemment. J'étais à 8 jours, dans la même semaine quasiment, j'étais invité à parler à deux conférences. Une première conférence à Agadir, organisée sous l'égide du roi du Maroc. Enfin, au Maroc, tout est sous l'égide du roi du Maroc. Enfin, c'est pas ici que je m'en étonnerais, dans ce pays-ci. Mais même s'il est moins présent, l'Institut du développement humain, c'est une vaste initiative lancée par le Maroc pour de qualité, de grande qualité, pour réfléchir à un développement humain. Pour s'étonner que le développement soit presque un pléonasme, mais non, ça n'en est pas un, malheureusement. Et c'est une initiative assez internationalement suivie. Et il y avait là à Agadir des gens d'un peu partout, des pays développés. Il y avait Strauss-Kahn, il y avait Martin Hirsch pour la France, et puis il y avait beaucoup de responsables politiques de l'Afrique subsaharienne, des responsables d'ONG. C'était vraiment une conférence de niveau impressionnant. Moi, j'étais très, très flatté d'y parler brièvement du social business. Mais surtout, la remarque que je me suis faite, il y avait là, je crois, 1000 personnes, admettons, c'est qu'il n'y avait pas un représentant d'entreprise. Donc, on réfléchit sur le développement humain et on parlait bien du développement économique. On était sur le développement économique. Il n'y avait pas un représentant d'entreprise. J'ai surtout parlé de ça en disant que j'étais absolument étonné qu'on puisse parler de développement humain avec des représentants d'ONG, des représentants de la politique, du monde politique, mais pas d'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que... C'est absolument extraordinaire. On va prendre des initiatives pour que le développement soit plus humain, sachant qu'à côté, il y a des entreprises qui ont leur activité, donc qui est hors contrôle, si je puis dire. Donc ça m'a vraiment frappé. J'étais dans la même semaine... Oui.
Et est-ce qu'il y avait des syndicalistes?
Non, il n'y avait pas de syndicalistes. Il n'y avait pas de syndicalistes.
Non plus.
Non plus. On pourra revenir sur ce... sur ce sujet, parce qu'on va y revenir sur la notion d'économie sociale. Et puis, j'étais quelques jours après à Londres, au sommet, quelque chose de beaucoup plus, moins nombreux, mais la conférence sur le private equity. Et il y avait là le private equity, pour ceux qui... Le private equity, c'est le financement hors marché public, au sens hors marché financier, du rachat d'entreprises. Ça, c'est un monde très dur où on rachète des entreprises avec des effets de levier, c'est-à-dire des endettements très importants, et on cherche la rentabilité. L'augmentation, on revend quelques années après, l'augmentation de valeur se faisant par une augmentation des marges pendant les 4-5 ans. Donc, la société est mise sous pression. On n'envisage la société que par l'augmentation des EBITDA, c'est-à-dire des résultats pendant quelques années. Monde très financier où l'entreprise vient entièrement sous la coupe de financiers. Donc, et ça, c'est un monde très technique. Il y avait là le fleuron du private equity un peu mondial. On dit pas, bon. J'y ai parlé aussi. Et là, il n'y avait aucun représentant du développement humain. Et là, il y avait une femme qui dirige un des très grands fonds, qui s'appelle Blackstone, enfin qui dirige, qui est numéro 2 de Blackstone, un des très grands fonds, une puissance, je ne sais pas combien, ils ont 2 milliards de dollars sous gestion, Blackstone, mais enfin, c'est plusieurs dizaines, évidemment plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et elle parlait de l'investissement en Chine, et elle disait, je n'investis jamais en Chine, parce qu'en Chine, les entreprises d'État, c'est les seules qu'on puisse acheter, les entreprises d'État, non pas comme idée directrice de faire des profits, mais de créer des jobs. Donc ça ne m'intéresse pas, donc je n'investis pas. Je peux vous dire, et donc les deux, c'était assez frappant de voir ces deux conférences prendre place à si peu, loin peut-être l'une de l'autre, mais pratiquement dans la même semaine et sans aucun lien entre les deux, sans aucun lien. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça ne sert à rien de parler de développement humain si pendant ce temps l'entreprise continue sur sa logique forte à laquelle je reviendrai dans un instant et il faut évidemment se faire rencontrer ces deux mondes. Il n'y a, je suis persuadé, il y avait des gens de la même, de qualité dans les deux cas, des gens de première qualité. Peut-être dans le second cas, des gens dont les qualités intellectuelles sont peut-être, en tout cas ont été plus utilisées, les qualités de raisonnement, plus utilisées que leur qualité humaine. Mais je n'ai aucune raison de considérer qu'il y avait moins de qualités humaines à Londres, a priori, chez les gens individuellement. Donc, en revanche, ce dont je suis persuadé, connaissant bien les gens de Londres, c'est que si on leur mettait des contraintes, des critères à prendre en compte dans leur prise de décision d'ordre humain, pour simplifier un peu, je suis persuadé qu'ils les prendront en compte et qu'ils feront leur métier de la même façon. Donc, ça, j'en suis mais persuadé. Ce ne sont pas des gens... Il faut réfléchir à sortir de ce cloisonnement. Alors, les réactions, peut-être continuer, les réactions face à cela, sont assez diverses. Elles sont assez diverses. Aujourd'hui, on a d'abord tous ceux qui disent, tous les capitalistes, tous ceux, les tenants purs et durs du capitalisme disent qu'il faut continuer, ça fonctionne très bien. Une crise de temps en temps, ça ne coûte pas très cher. Et si vous regardez sur plusieurs années, ça n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Si vous, prenez, si vous regardez simplement les chiffres, vous regardez une croissance pendant sa monnaie, vous regardez n'importe quel indicateur financier, le cours de bourse ou un autre, faites la réduction par la crise et vous repartez, ça va assez bien vu de cette façon. Et je vous assure que ceux-là ne sont pas une minorité de dogmatiques du capitalisme. C'est la majorité des gens que je rencontre. Donc, vous fréquentez visiblement, vous fréquentez un cercle qui réfléchit même au socle philosophique du management. Donc, pour vous, il y a des choses qui sont données, elles ne sont pas données. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'ignorance qu'il y a encore vis-à-vis de toutes ces questions qu'on aborde ici. C'est très important d'en prendre conscience. Il y a quelques jours, je voyais Madame Boutin. Madame Boutin, c'était en charge de la famille, était ministre de la famille en France jusqu'à récemment. Elle a été chargée par M. Sarkozy de lui faire des propositions dans le cadre de sa présidence pour le G20, propositions dans le domaine de l'essence très large du terme de l'économie sociale. Donc je l'ai rencontrée plusieurs fois, notamment sur le social business, elle lui a fait toute une série de propositions. Et elle me disait, elle me parlait d'un des grands politiciens français, elle n'avait pas dit lequel, elle m'a dit juste pas Sarkozy, donc ça doit être juste en dessous, n'avait jamais entendu le terme de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, et n'avait jamais entendu le terme de social business. C'est étonnant. Social business, encore. Maintenant, il suffit de lire un peu les journaux, c'est presque partout. Je ne dis pas qu'il faut acheter mon livre, forcément. Mais responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quand même étonnant. Donc, ça, c'est un premier groupe. Vous avez à l'opposé un autre groupe qui est, je vais un peu vite, donc je caricature forcément mon propos un tout petit peu, ou je le force. Donc, n'en soyez, si des expressions vous choquent, n'hésitez pas à le dire. Mais les tenants de l'économie sociale traditionnelle. L'économie sociale traditionnelle qui, chez ceux d'entre elles qui sont dogmatiques, ont une position très dure vis-à-vis du capitalisme en disant « économie capitaliste, c'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde du profit, ces gens-là ne peuvent pas toucher au social. Ils saliraient le social de leurs mains s'ils y touchaient. » Et je n'exagère pas. Si vous regardez, par exemple, il y a un auteur, pardon, mais mes références sont plus françaises que belges, malheureusement. Enfin, j'en ai aussi, quand on viendra à des positions plus juridiques, si on y vient ce soir, je vous donnerai des références belges. Mais Thierry Jantet, un des penseurs de l'économie sociale en France, a exactement cette position, mais extrêmement, extrêmement dure. Bon, l'économie sociale, historiquement, c'est quoi ? C'est donc On remonte à la fin du 19e, on a Charles Gide, on remonte à tous ces gens-là. C'est une idée extrêmement généreuse, c'est un autre mode de production. Donc on en vient à la présence des syndicats. C'est l'appropriation par soit les travailleurs dans l'entreprise, soit par les clients de l'entreprise, de la propriété de l'entreprise. L'économie sociale, c'est véritablement, en tout cas telle qu'elle est, historiquement, c'est cela. C'est-à-dire, c'est un mode d'organisation de l'entreprise différent du mode capitaliste où l'entreprise appartient à celui qui apporte les capitaux. Là, c'est l'entreprise appartient à celui qui travaille ou celui qui bénéficie de ses services, qui peut éventuellement être le même. Ça, et alors, qu'est-ce qui s'est développé ? Les instruments traditionnels, c'est la coopérative, c'est l'association, c'est la fondation, c'est la mutuelle. La fondation, c'est un petit peu différent, mais enfin, on classe la fondation avec l'économie sociale. Bon. Et ça, c'est l'économie sociale traditionnelle, française, italienne, surtout sud-européenne, même si on trouve des origines en Angleterre. Bon. Et profitant de la remise en cause aujourd'hui du capitalisme depuis la crise, il y a un renouveau très fort des tenants de l'économie sociale. Renouveau très fort en disant c'est chez nous, l'avenir est chez nous. Et vous voyez dans la presse régulièrement des illustrations de cela. Vous avez des illustrations intéressantes. Je crois que c'est vous me la citiez, par exemple, récemment, qui a été écrit en Belgique. Éthique, je crois que ça s'appelle. Une mutuelle, une société coopérative, d'investissement éthique. Voilà. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat social, c'est la tradition de l'économie sociale en France, avec sa version la plus moderne, qui est introduisons la démocratie dans l'entreprise. C'est le thème qui est récent, qui est très fort. Hugues Sibyl vient de sortir un livre sur cette question-là, le président du Crédit Coopératif. Réintroduisons la démocratie dans l'entreprise. Bon. C'est une école intéressante. Pour moi, c'est une école intéressante. Aujourd'hui, on a rajouté le terme solidaire. On a rajouté économie sociale et solidaire. On rajoute solidaire. Solidaire, c'est vraiment l'insertion. Solidaire, c'est tout ce qui est insertion par le travail. Bien. Donc, on a ces deux camps qui ne se regardent pas, qui se critiquent très fortement. Et je vous assure que le clivage est terrible. Et franchement, clivage dont on n'a rien à faire. Les gens qui ont des besoins sociaux, ils n'ont rien à faire de ce clivage, c'est vraiment pas leur problème, mais malheureusement, ils nous bloquent quand même pas mal. Je vais revenir dans un instant tout à l'heure. Et puis, vous avez, là, c'est les deux grands camps, puis vous avez des gens, ensuite, peut-être des gens, vous avez des gens qui ont une position un peu médiane, en disant, enfin pas médiane, mais qui se disent, au sein du capitalisme, il faudrait que l'entreprise, quand même, et un comportement un peu plus responsable. Et à partir de là, c'est développer tout ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Bon. Voilà à peu près, je dirais, les camps en présence. Ce que je pense fondamentalement, c'est que la dérive... Je remonte un petit peu en arrière. La dérive récente du capitalisme, ce qu'on a vu au moment de la crise, qui est apparue, de manière très forte, comme des bulles d'air qui d'un coup sortaient, ou comme une mer qui se retire, et puis on voit toutes les pierres sur les plages, tous ces excès qui sont apparus très forts, que ce soit les rémunérations des traders, que ce soit la faillite de Lehman, que ce soit la chute de Madoff, qui est encore un petit peu différente. Tout cela, pour moi, et ça c'est vraiment l'idée de départ, n'est pas une dérive, n'est pas une dénaturation du capitalisme. Je pense qu'au contraire, c'est l'aboutissement de sa logique, aboutissement qui a été permis par des circonstances particulières. Je m'explique. Quand le moteur et le but, que ce soit le moteur certes, mais le but aussi de toute société appartenant donc au monde capitaliste, est le partage du profit. Que ce soit dans votre code de commerce belge, que ce soit, je ne peux pas vous le citer là, mais je vais vous le citer, donc vous le connaissez probablement, mais je vous le cite quand même, parce que c'est quand même, on a tendance à l'oublier. Voilà, une société, c'est l'article 1. Une société est constituée par un contrat au terme duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Bon. Nous avons le même article en droit français, il le retrouve à peu près dans tous les droits. Autrement dit, le but de cet acteur fondamental du monde économique qu'est la société, je reprends le terme entreprise, qu'est l'entreprise, c'est le partage du profit. Donc, je mets en place, l'instrument, la légitimité juridique de la société, ça n'est pas, pardon, d'être socialement responsable, c'est de maximiser le profit. Au départ, au moment, pour nous en France, c'est un peu pareil pour vous, c'est un peu plus tardif pour vous, le contrat de société existe depuis le début du 19e. Au départ, effectivement, les personnes sont prépondérantes, nous sommes quelques-uns, nous décidons ensemble de créer une société. La société est un instrument à notre disposition. Et nous la dominons, et nous avons une vie par ailleurs, nous avons des objectifs, nous avons des idéaux, nous avons des convictions, nous avons des loisirs, mais nous avons entre nous, pour une activité économique donnée, que nous avons pensée au préalable, nous avons créé cette société, puis ensuite éventuellement on a employé les gens. Vous imaginez bien que cette société créée ainsi il y a deux siècles n'est plus du tout la société, n'est plus du tout l'entreprise d'aujourd'hui. L'entreprise d'aujourd'hui, elle a par l'évolution, par le développement, grâce au développement agricole, elle a totalement changé. Elle est devenue hors contrôle. C'est-à-dire qu'elle est devenue elle-même une personne, on appelle ça une personne morale, il n'y a évidemment pas de moralité là-dedans, mais il y a une personne, on l'appelle une personne morale. Elle est devenue une personne morale existant de manière autonome. C'est ça qui est très, très important de comprendre. Plus personne ne la contrôle. Dès lors qu'elle a une certaine taille, plus personne ne la contrôle. Vous avez des gens qui viennent s'agglutiner par en haut ou par en bas, qui vont venir en profiter pendant un certain temps, mais elle est hors contrôle. L'actionnaire, et j'ai une foultitude d'actionnaires, qui vont venir pendant un certain temps placer leur argent là, à condition qu'ils ont un retour sur investissement important. Mais l'activité de l'entreprise n'est pas leur sujet. Ils viennent là pomper, je ne dis pas ça négativement, mais pomper une plus-value ou des dividendes pendant un certain temps. De la même façon, en tant qu'employé, je vais y venir pour essayer d'être rémunéré. Enfin, surtout si je suis dans les domaines un peu financiers, essayer de pomper là aussi pendant un certain temps une somme la plus importante possible, surtout pour dans le monde des financiers, où ma rémunération va être liée à ma performance. Pareil pour les dirigeants, ça c'est en fait un point extrêmement important. À partir du moment où on a indexé la rémunération des dirigeants sur le cours de bourse, on leur a donné le même intérêt que l'actionnaire. Ça c'est extrêmement important, hein, de bien. Quel est l'intérêt de l'entreprise, hein, quand je prends une décision, moi, travaillant au sein de l'entreprise, je dois la prendre en fonction de l'intérêt de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'intérêt social. L'intérêt social, c'est, dans le monde anglo-saxon, la maximisation du profit. Point. Shareholders value. Point. Maximizing shareholders value. Ça, aujourd'hui, ça paraît ici, ça paraît indu de dire cela. C'est la règle de fonctionnement de la société pendant les 20 dernières années, maximizing shareholders value. Et chacun est amené dans son comportement à faire tout ce qu'il faut pour que la valeur de l'actionnaire augmente le plus possible, puisque mon mode de rémunération ma rémunération à moi, dirigeant de l'entreprise, est également liée à la shareholders value. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, parce que sinon, je ne vais pas arriver à la...
Donc, je vais reprendre.
Pardon ?
Et à court terme.
Et à court terme, c'est-à-dire...
Ce qui ajoute...
Absolument, absolument. Alors, si vous voulez, vous avez parfaitement raison, parce que vous pouvez faire ma transition. C'est que j'ai d'une part une société qui est récemment, hein, tout ça, c'est pas vieux, ça remonte dans les années 70, est devenue hors contrôle et qui existe en tant que telle et que plus personne ne contrôle et qui a sa logique. Et vous avez toute une série de gens autour qui vont y travailler quotidiennement, et qui sont malins, qui sont de plus en plus malins, pour que ce profit soit maximisé. Et ceci, ils vont pouvoir, c'est là où il y a l'intervention de faits extérieurs, si vous voulez, c'est toujours quand il se passe quelque chose d'un peu important, c'est qu'il y a la rencontre entre un sujet qui est l'entreprise et des éléments exogènes, et qui vont permettre de maximiser le profit. C'est d'une part cette notion de temps. On ne prend plus en compte la notion de temps, on est exclusivement dans le court-termisme, c'est-à-dire il faut que mon profit soit réalisé de manière rapide. Et moi, actionnaire, ça vient surtout à cause de la pression de l'actionnaire. Moi, maintenant actionnaire, je peux à tout moment et à toute vitesse passer mon investissement de A à B à C, avec le développement des marchés financiers. Enfin, oui, le développement des marchés financiers qui n'est pas si ancien que ça, même si les marchés existent depuis longtemps, mais le fait que je peux, à partir de mon ordinateur, moi, prendre là, tout à l'instant T, le sortir de là, aller là-bas, aller à B, qu'il n'y a plus de frais de bourse, qu'il n'y a plus de commission de bourse, etc., ça fait que je peux réagir extrêmement, extrêmement rapidement. Le paroxysme, enfin là, si je veux pousser jusqu'à son stade ultime, c'est le hedge fund. C'est le hedge fund qui va pouvoir non seulement rester peu de temps sur une action, mais qui va rester au moment où il y a une fusion, où il se passe quelque chose d'important, qui va faire de l'arbitrage entre l'évolution de deux titres. Bon. Donc, effectivement, un court-termisme absolument terrible qui ne me permet plus d'exercer quelque jugement que ce soit. Le fait que je n'ai plus besoin, je vais aller un peu vite là-dessus, mais le fait que je n'ai plus besoin de capitaux pour faire des profits, ça, c'est avec les produits dérivés. Je n'ai absolument plus besoin. N'importe qui, vous, moi, enfin, peut réaliser une énorme plus-value sur la journée s'il a la bonne, grâce aux produits dérivés. Je n'ai plus besoin de capitaux. Donc ça aussi, élément tout à fait nouveau qui n'est pas critiquable. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'explique qu'il y a un certain nombre d'éléments. Les marchés qui se... Enfin, le fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai donc l'urgence. Le fait que le risque n'est plus une contrainte que je prends en compte quand je structure mon affaire. Le risque est une opportunité de gain. S'il y a un risque quelque part, c'est que je peux avoir une action qui va bouger rapidement. Une action qui va bouger rapidement, c'est une opportunité de gain. Donc il y a toute une analyse mathématique extrêmement, extrêmement poussée et qui va permettre au monde financier de réaliser des gains énormes. Moi, je me souviens, je commence à travailler dans les années 80, je me souviens très bien, j'ai assisté, c'était à l'époque Thomson, c'était vraiment la première. À l'époque, on ne voyait pas du tout quelles allaient être les conséquences, qui tout d'un coup, grâce à un orfèvre de la finance, qui vit toujours d'ailleurs, est arrivé à une année donnée, par la gestion de sa trésorerie, à générer plus de profits que l'activité industrielle de Thomson. Et tout le monde a été assez impressionné de cela. Et on ne comprenait pas du tout où ça allait nous mener. Mais c'est le début, vous voyez, d'un changement. Et forcément, il y a une dévalorisation du travail gigantesque. Forcément. Est-ce que je vais être fier, moi, un ouvrier Thomson, ayant participé à une création de richesse au total inférieure de ce qu'a fait ce financier en restant dans son bureau. Donc, ce sont des éléments nouveaux. Et puis, troisième élément, là, j'étais donc dans l'entreprise des éléments hors non juridique, et puis j'ai l'environnement dogmatique, l'environnement intellectuel économique, qui est un environnement qui là aussi, c'est vraiment une conjonction d'éléments favorables, si je puis dire, ou défavorables, c'est comme on voudra, c'est la théorie économique, c'est l'école de Chicago, principalement, c'est une croyance, mais dogmatique, dans la qualité du marché, c'est-à-dire que le marché donne toujours le juste prix. Il ne faut pas intervenir, et plus on intervient plus l'État ou d'autres interviennent dans le fonctionnement du marché, moins le marché donnera le juste prix. Donc il faut laisser, c'est le libéralisme à outrance, il faut laisser le marché donner le juste prix, le marché donnera forcément le juste prix. Là où c'est très étonnant, c'est que pendant toutes ces années-là, il y avait un article notamment d'un économiste qui s'appelle Krugman, mais je pourrais vous donner des références de tout cela si vous voulez, très intéressant récemment, qui analyse toute cette période-là. Ce qui est étonnant, c'est que toute voix discordante n'est pas écoutée. Alors c'est le plus étonnant. C'est pas que les économistes prennent cette position-là parce qu'elle a... ces gens n'étaient pas idiots, mais il n'y a plus de contradiction. Il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de doute. Il y a récemment, l'économiste Maurice Allais est mort. Quand Allais est mort, toute une série d'économistes disaient « S'il avait été écouté 20 ans plus tôt, nous n'en serions pas là. » Il n'a pas été écouté, et lui et d'autres. Et quand vous voyez toutes les déclarations qu'ont fait les grands banquiers, les Greenspan aussi et autres, après la crise, c'est absolument stupéfiant. Ça fait un peu froid dans le dos. C'est vrai, nous avions faux, nous étions dans l'erreur la plus totale, d'un bout à l'autre. Bon. C'est vraiment étonnant, les phrases vont très très loin. Tous les banquiers qui parlent, nous ne comprenions plus ce que nous faisions. Les produits étaient... Nous ne comprenions même plus les produits, et c'est vrai, ils ne comprenaient plus les produits, les gens des échelons. Hein. Bon. Donc on a une conjonction d'éléments qui nous ont amenés là. Ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est... La structure même de l'entreprise et son orientation vers la fidélisation du profit qui ont permis cela. C'est-à-dire que si on ne veut pas recréer le même, repartir demain dans la même logique, il va falloir réfléchir à la fidélité de l'entreprise. Parce que, encore une fois, pour moi, ça n'est pas une dénaturation ce qui s'est passé, c'est une logique poussé à son stade ultime à cause d'un environnement qui l'a permis. Je ne pense pas qu'en modifiant tout simplement l'environnement, et on va venir, si vous voulez, je ne vois pas très bien qu'en modifiant l'environnement, on va éviter que ce type... ça n'est pas suffisant, en tout cas. Alors... Au moment où j'ai ces réflexions, je croise, si je puis dire, le social business. Donc, qu'est-ce que c'est que le social business ? Social business, c'est une entreprise qui se fixe, une entreprise du monde capitaliste, qui se fixe un but social. C'est-à-dire que c'est donc un instrument qui appartient totalement à l'économie capitaliste, qui fonctionne comme une entreprise capitaliste à partir d'un apport de capitaux. Alors, la société appartient aux apporteurs de capitaux et elle nomme ses dirigeants qui doivent, en gros, elle a ses employés, mais au lieu d'avoir pour but la maximisation des profits, elle a pour but un but social, sociétal, environnemental qu'elle s'est fixé. La modification de perspective est énorme. Elle est énorme. Et vous allez voir que les conséquences le sont à mon avis aussi. Alors, peut-être pour être concret, un exemple. Un exemple de social business. Danone, entreprise monde capitaliste, avec le professeur Yunus, qui a créé la Grameen Bank. La Grameen Bank, c'est une banque qui distribue des microcrédits au Bangladesh. Et Yunus a reçu le prix Nobel de la paix. Premier économiste d'ailleurs, je crois, à recevoir le prix Nobel de la paix. Sachez pour ailleurs, que vous ne soyez pas déçus demain en lisant la presse, que je dirais pas néanmoins. Sachez aussi que le microcrédit tel que pratiqué par la Grameen Bank actuellement au Bangladesh est soumis à des critiques extrêmement fortes, notamment au Bangladesh et notamment par le ministre. Le ministère des Affaires économiques, je suis plus tout à fait sûr, actuellement au Bangladesh, en disant il profite d'une population pauvre. Il y a un débat là-dessus. Sachez simplement qu'il y a un débat, on pourra, j'en suis pas un spécialiste, mais on pourra y revenir. Bon. Mais donc il avait créé la Grameen Bank, et puis avec Danone, ils ont créé la Grameen Bank et Danone, une filiale commune, Danone Grameen Food, ce genre-là, qui a pour but, alors, qui s'est fixé pour but la production d'un yaourt qui puisse être acheté et de manière bénéfique par les familles pauvres du Bangladesh. C'est-à-dire, le yaourt devait répondre à deux critères principaux, pouvoir être acheté, donc un prix bas, un prix bas ça ne veut rien dire, c'est gentil comme idée, mais c'est un prix que les personnes qui doivent le consommer puissent consommer. Il faut aller jusque-là, il faut aller à l'étape suivante. Le prix que les gens qui doivent le consommer puissent payer ce prix. Et puis, un yaourt qui soit, sur le plan nutritionnel, adapté à... C'est vrai que je n'ai pas fini sur le... Mais on y reviendra après à l'économie sociale. Oui, on y reviendra après à l'économie sociale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que Danone a abordé ce sujet ? Ils sont allés au Bangladesh, on fait des études assez poussées sur le besoin d'abord du client, sur définir son besoin, et à partir de là, du diagnostic sur ce besoin, ils ont remonté la chaîne, c'est-à-dire ayant essayé, avec le savoir-faire d'Anone en matière de production, de concevoir des petites unités de production qu'il a fallu entièrement adapter à ce besoin diagnostiqué. Et puis Grameen, lui, a apporté le mode de distribution, parce qu'une fois qu'on l'a fait, il faut le distribuer. Et évidemment que les modes de distribution classiques, si on va le mettre dans le supermarché dans lequel de toute façon ils ne viendront jamais, on n'a encore rien fait. Donc il fallait trouver un mode de distribution, ils ont trouvé un mode de distribution par des mères de famille, mais enfin déjà qu'utilisaient déjà le microcrédit, en s'appuyant sur des réseaux traditionnels et de la société du Bangladesh. Voilà. C'est comme ça qu'ils le distribuent. C'est un vrai succès. Et là, ils vont en développer d'autres. C'est quelque chose qui marche bien. J'ai donné cet exemple-là. J'aurais pu en donner d'autres. Danone est particulièrement actif, mais il y a de nombreux exemples. Il y a des Schneider, je suis sûr qu'on en trouve ici aussi. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, certains donc à l'initiative de sociétés traditionnelles, d'autres à l'initiative de personnes physiques, des petits projets de quelques personnes qui se rencontrent. Bon.
Est-ce que c'est bénéficiaire ce projet ?
Non, c'est trop tôt pour le dire. Alors, on ne sait pas encore. Il n'y a pas de projet. On ne sait pas dans le cas. C'est vraiment trop tôt parce qu'ils sont encore en stade d'investissement. C'est-à-dire que maintenant la première usine fonctionne, ils sont en train de prévoir la seconde. Mais ce qu'ils n'ont pas encore fait, c'est l'évaluation un peu scientifique du projet, parce que ça, ils n'ont pas financé l'évaluation du projet. Mais évidemment, ces projets sont plus faciles à concevoir et à lancer qu'à pérenniser. Hein. Ça, c'est une difficulté. Hein. C'est là où on verra vraiment ce qu'il en est.
Mais en quoi est-ce du social business et pas une entreprise traditionnelle ?
Alors, on l'appelle, pour l'instant, les mots, on en fait ce qu'on veut, si je puis dire. On appelle une entreprise qui se donne un but social, un social business. Ça n'est pas une entreprise traditionnelle, parce que l'entreprise traditionnelle ne part pas de cette logique-là. Elle ne cherche pas. Ici, le but était de s'adapter pour permettre à des enfants de familles pauvres et mal nourries de se nourrir. Donc c'est cette logique qui est inversée, vous voyez ? C'est cette logique qui est inversée.
Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, le profit est un moyen pour réussir les objectifs sociétaux, tandis qu'à l'inverse, dans une entreprise traditionnelle, le profit est le but ultime.
Et je change, c'est absolument exact, le profit de finalité devient moyen.
C'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on reproche aux sociétés de microcrédit. Parce que font les sociétés de microcrédit? Elles prêtent à une frange de la population qui n'a pas accès au crédit normal.
Oui.
Seulement, elles ont quand même des capacités de remboursement. C'est comme dans votre cas, c'est des gens qui ont la capacité d'acheter des yogourts.
Oui.
En dessous de cette frange-là, il y a une autre frange qui n'a même pas l'accès,
oui,
d'acheter un yogourt même pas cher.
Oui.
Donc, c'est en ça que c'est une politique qui s'adresse à une frange de la population différente, mais qui ne s'adresse pas à toute la population. Alors, la deuxième chose que je voulais dire,
oui,
c'est que pourquoi on ne parlait pas des sociétés publiques? Les entreprises publiques, c'est des sociétés qui appartiennent, qui ont des capitaux, qui appartiennent à la collectivité et qui ont des objectifs sociaux. Hein, par exemple, conduire les personnes à leur travail, par le tram, par le train, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut inventer un nouveau concept?
Alors, sur le premier point, ça n'est pas parce que une entreprise va régler un problème social qu'on a besoin social qu'on va lui reprocher de ne pas en régler un autre. Qu'il y ait, si vous voulez, c'est pas parce que Danone... D'accord.
Ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'a pas la possibilité par ce système de régler le problème des gens qui peuvent...
Non, comme elle ne s'occupera pas des sans-abri, comme elle ne s'occupera pas, si vous voulez, peut-être dans ceux que vous mentionnez, il y a des besoins, il y a des populations certainement encore plus défavorisées. Hein. C'est, elle ne s'occupe pas des sans-abri, il s'occupe pas des sans-abri et ils ne viennent pas le soir à les distribuer. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et sur le deuxième point, d'abord, des sociétés publiques, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins après les privatisations.
Mais ça pourrait être une solution.
Oui, mais la société, si vous voulez, société publique, alors c'est très intéressant ce que vous dites. D'abord, on les a privatisées. Premier point. Premier point.
Pourquoi?
Et pourquoi? Voilà, parce qu'elles étaient hors marché. Là, ce qui est intéressant dans le social business, c'est qu'il est dans le marché. Les sociétés publiques étaient hors marché, pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Et on est bien dans une ville où on sait ce que c'est que la concurrence. C'est bien une obligation qui a été imposée aux États, obligation sur laquelle on reviendra peut-être. Hein. Votre voix est tout à fait intéressante, mais on reviendra peut-être. Mais à partir du moment où j'impose la concurrence, je suis obligé de privatiser. Je n'ai pas le choix. Parce qu'une fois que je mets le privé à côté du public, le public ne tient pas, parce que souvent il n'est pas bien géré. Il n'était pas bien géré.
Toujours les arguments, c'est que c'est mal géré.
Mais oui, mais le fait est... Mais à ce moment-là, si vous voulez... Là, c'est un autre débat. Moi, j'ai très bien connu le monde de l'autoroute. L'autoroute, les sociétés exploitantes d'autoroute. Et j'ai vu de la régie des autoroutes jusqu'à la privatisation totale. Je ne suis pas sûr qu'on ait progressé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas bien géré. Ce n'était pas bien géré parce qu'il y avait une confusion des pouvoirs. Si vous voulez, donc on aurait peut-être dû adresser le problème autrement. Moi, je le pense tout à fait. On aurait dû adresser autrement. Le fait est qu'on est allé vers cela. Donc, en tout cas, ce sont des sociétés hors marché. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez, elle est hors marché, protégée de la concurrence. Donc, je crains que l'exemple ne puisse pas être élargi. Ce qui est intéressant dans le social business, c'est que c'est quelque chose qu'on peut... Donc, c'est un instrument. Alors, d'abord, pour qu'on soit bien clair, c'est la présence d'un instrument que, en soi, on ne va pas parler du capitalisme en général. Moi, je salue fortement l'avènement de ce, c'est une période où on peut le dire, l'avènement de cet instrument. C'est un instrument de plus parmi d'autres. Ça, il faut être bien clair. L'instrument est un peu révolutionnaire pour une raison que j'indiquerai après. Mais en soi, par rapport maintenant aux besoins sociaux, c'est un instrument par rapport aux autres. Ils peuvent faire des choses que l'association ne peut pas faire, que l'ONG ne peut pas faire, que la société traditionnelle ne peut pas faire. Ce n'est pas pour ça que c'est un instrument qui est meilleur. Il est adapté à certains besoins. Ça, c'est extrêmement important de parce que sinon on se trompe de débat. Bon. Il est... Si je reste un instant sur le... Peut-être, un point. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'instrument, et là, je pense à vous particulièrement, soit bien défini. Si je veux peindre un tableau, il faut que je ne vais pas partir d'un mélange des couleurs. Je vais partir de couleurs distinctes. Et après, je vais peut-être les mélanger. Mais moi, le peintre, il va partir de couleurs distinctes. Quand je dis qu'il a une palette de couleurs à disposition, il a des couleurs différentes. Pour une action, pour demain, pour une action, que je sois en amont ou en aval, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des instruments distincts à disposition, l'association, mais chacun pour ce qu'il est, la coopérative, le social business, l'action caritative philanthropique, que j'essaie, et que chacun soit bien ce qu'il est pour qu'on voit et qu'il n'y ait pas un grand mélange de tout. Alors, un des débats que nous avons actuellement, mais qui est un débat bien continental, parce que l'instrument est quand même venu du monde anglo-saxon. Ça, c'est un instrument qui vient du monde, parce qu'eux n'ont pas, sans d'autres défauts, sans aucun doute, mais ils n'ont pas de problème dogmatique, savoir le non-profit, est-ce que ça peut être, d'où est-ce que ça peut venir, enfin, pour eux, on mélange tout allègrement, ils sont beaucoup plus dans l'efficacité. Bon. Et nous, on a, par rapport au social business, on a de toute une série de gens qui réagissent en disant c'est affreux, il ne faut pas y toucher, ça fait partie du monde capitaliste, il ne faut pas y toucher. Ou au contraire, on a ça surtout en France, l'économie sociale qui essaye de dire oui, c'est du social, mais ce n'est pas pur, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui fonctionne comme une entreprise traditionnelle, ça n'a pas le label économie sociale. Et moi, je pense qu'effectivement, si on définit l'économie sociale comme je l'ai défini au début, cet instrument-là ne fait pas partie de l'économie sociale. Ça, je le pense vraiment. Je pense que c'est un débat qui va être très passionnant s'il en fait partie ou pas. Mais ça n'en, à mon avis, ça n'en fait pas. De toute façon, je pense que ça n'est pas complètement périmé. C'est cette opposition entre les deux, je pense qu'il faut en sortir très vite. Il faut en sortir très vite, sinon on va tout simplement continuer de la même façon, comme avant. Mais c'est un instrument de l'économie capitaliste, et si on les définit comme je les ai définis plus tôt. Alors, si on reste encore une seconde avant de revenir à... Puis vous m'arrêtez, Laurent, quand vous estimez, n'hésitez pas. Alors, une question qui se pose sur ce social business, c'est qu'il faut le définir. Je viens de le définir à peu près. Les Anglais sont allés un peu plus loin. L'exemple est intéressant parce que c'est un débat qu'on a en Europe, sur le continent aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je lui donne comme label? Parce qu'il y a l'accès à des fonds publics. Donc, est-ce qu'il faut que je donne un label? Est-ce que je dois laisser ça complètement non régulé ou régulé? Bon. Et il y a un mouvement actuellement, surtout par exemple en France, il y a 100 millions que le président Sarkozy a dit, 100 millions disponibles pour l'économie sociale. Donc hop, vite, il faut que je rentre dans la case économie sociale, sinon j'ai pas accès à mes 100 millions. Donc les Anglais, puis il y a des tentatives ailleurs, étaient de donner un nom, et ils ont fait quelque chose à mon avis qui est assez intéressant. Je vais faire un petit détour par là un instant. Ils ont défini la CIC, la Community Interest, la société d'intérêt public, qui peut prendre toute forme de société. Ça peut être une société par action, ça peut être toute forme de société, d'accord? Mais ils lui donnent un label. Et quelles sont les conditions pour avoir ce label qui va ensuite permettre d'autres choses? Il y a un principe qui est un principe important, qui est l'asset lock. Ce que Yunus appelle no loss, no dividend. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'appropriation privée du profit. C'est-à-dire que non seulement le profit est le moyen, ça c'est ce qu'on veut, il faut avoir un but social, bon. Mais en plus, et ça moi je trouve ça tout à fait intéressant, il ne peut pas y avoir d'appropriation privée du profit. Puisque le profit va exister, on est dans un domaine où le profit existe. En tout cas, il est souhaité. Il est fortement souhaité. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce profit? Est-ce que je le distribue ou pas? Alors, Yunus, lui, est assez dogmatique sur la question. Il dit « no loss, no dividend ». C'est-à-dire, pas de « je vais perdre », bon, c'est bien, on peut toujours le décréter. Et pas de dividende non plus. Moi, je pense que c'est, personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que, pour moi, le capital représente un coût comme tous les autres éléments. Il n'y a pas de raison, parce qu'on vient des excès du capitalisme, de considérer que, puisque pour une entreprise, il faut un certain nombre de choses, mais il faut notamment du capital, il faut de la dette elle est rémunérée, pourquoi ne pas rémunérer le capital? Et je pense que si on ne rémunère pas le capital, on ne permettra pas le développement du social business. Alors les Anglais, eux, disent, on peut rémunérer le capital, mais jusqu'à un certain montant. Ils le limitent, et à un montant assez faible, enfin un montant raisonnable. Alors ça dépend, ils sont en train de réfléchir à l'augmenter, mais enfin en gros, les gens, d'ailleurs dans la société coopérative, j'ai vu qu'ils limitent à 4%. Bon, quelque chose, on est dans un marché, dans l'épargne bien bloqué, 4%, 5%. Bon, moi je pense que c'est important. Mais en dehors de ça, à cette loque, c'est-à-dire je ne peux pas m'approprier, même par une voie cachée, par le salaire, par le rachat d'un actif de la société, hein, parce que je peux utiliser 36 moyens pour recapter les profits. Donc il y a le principe de l'asset lock. Et une fois que j'ai ça, après il y a d'autres conditions à remplir, je reçois le label CIC, et bon, le label CIC, ça rassure les tiers, ça rassure les banquiers qui prêtent, ça rassure, et ça permet de l'accès à des marchés publics, dans certains. Enfin, on peut dire, un accès au marché. Je réserve des marchés publics ou une partie des marchés publics à des sociétés CIC. Enfin, je peux faire plein de choses une fois que j'ai un label. Nous, en France et de manière générale en Europe, on a quand même un petit problème parce qu'on a cette notion d'entrepreneuriat social. La notion d'entrepreneuriat social, elle est beaucoup plus large et elle se rattache au monde de l'économie sociale. Donc il y a de vraies questions de frontières. Je vais pas être un peu trop technique, mais il y a de vraies questions de frontières. C'est un acteur intéressant parce que c'est un acteur qui est obligé d'être efficace, sinon il n'est pas pérenne. C'est un acteur qui peut avancer assez vite parce qu'il a une modalité de prise de décision encore entrepreneuriale. Hein. Donc c'est un acteur qui me paraît intéressant et très adapté, puis très adapté à certaines circonstances. Rien ne m'empêche de faire un social business en intégrant dans la prise de décision les employés ou les clients. Auquel cas, je serai une sous-catégorie, enfin j'aurai une partie des social business, peut évidemment faire partie de l'économie sociale. Hein? Il faut juste, rien n'empêche que le social business, si je le structure comme une... sous forme de coopérative, sous d'autres formes. Peut-être pour conclure, parce que j'ai été long, en quoi ce social business est-il intéressant plus largement pour la réforme du capitalisme? Alors je pense qu'il est extrêmement intéressant, parce que d'abord, il montre qu'une entreprise peut exister autrement qu'en poursuivant le seul profit. Ensuite, parce que je pense que, à un niveau un peu différent, je considère que la RSE est une chose heureuse, quelque chose d'heureux, parce que ça accroît la prise de conscience de la part des dirigeants. Je ne pense pas qu'une entreprise ait une conscience, donc je ne pense pas qu'une entreprise puisse être éthique, puisse être morale. J'ai horreur des codes d'éthique des entreprises. Enfin, je trouve que c'est affreux. Ça accroît encore l'emprise de l'entreprise sur la vie privée des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les codes de conduite. Moi, je trouve ça... c'est contraire à tout ce que je pense. Pour moi, l'entreprise, il faut lui fixer un objectif. Et c'est les dirigeants qui ont une conscience morale, et les employés et les actionnaires, mais pas l'entreprise. Et l'éthique des affaires, les codes d'ontologie, c'est juste un moyen pour rendre les gens encore plus productifs. Et bon, je pense que l'éthique, on peut y venir après, si vous avez une discussion, la formation éthique, elle est fondamentale, mais elle doit se faire ailleurs. Donc, je ne crois pas beaucoup dans la RSE, je ne crois pas... La RSE est intéressante parce qu'elle amène des sujets dans l'entreprise, mais elle ne les amène pas encore aujourd'hui au bon endroit. Elle ne les amène pas au bord. Elle ne les amène pas dans les conseils d'administration. Elle ne les amène pas dans les roadshows. Vous savez ce que c'est que les roadshows? Les roadshows, c'est un moment fondamental de l'éveil d'entreprise. C'est quand le dirigeant fait le tour du monde pour aller expliquer aux fonds de pension, aux grandes banques, aux investisseurs institutionnels, pourquoi ils doivent investir chez lui. On ne parle pas beaucoup de RSE à ce moment-là. On en parle en première. Et je ne dis pas ça, encore une fois, je ne dis pas ça négativement. C'est simplement, je pense que l'instrument, il n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas l'instrument qu'il faut. En revanche, je pense que pour une entreprise traditionnelle, première étape, avoir en son sein un social business qu'il développe aura des effets extrêmement importants sur son mode de pensée. Et on le voit, on l'entend. Quand j'entends quelqu'un parler d'Emmanuel Faber, directeur général de Danone, quand il m'explique doucement ce que dans les décisions, parce que là, il y a des décisions qui ont été prises par Danone, il y a 100 millions d'euros qui ont été prélevés sur les bénéfices quand même pour mettre dans un fonds de dotation, il y a des discussions, des décisions d'argent. Quand l'effet qu'aura la présence de social business dans des grandes entreprises, pour l'évolution lente de l'entreprise, me paraît important. Demain, l'ensemble des entreprises ne peuvent pas changer leur but et de profit et remplacer le but social par le but social. Ça n'est pas réaliste. En revanche, ce qui est réaliste, c'est qu'une entreprise se dit j'ai de plus en plus d'entreprises maintenant se disent j'ai une mission. Cette remarque que j'ai vue, vous avez de plus en plus d'endroits, c'est récent, mais ça a un florilège du mot mission. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que la mission, je suis un juriste un peu élémentaire, mais je vois ça. Ça m'amuse beaucoup, parce que ça va exactement dans le sens que je veux, c'est plutôt que de rajouter, on a le but, on a l'objet, maintenant on a une mission, quelque part là-haut, c'est très dangereux, ce qui est quelque part là-haut. Je transforme mon but, je dis quel est le but, et puis je vais décliner cette activité. Par exemple, Blédina, permettre aux mères d'allaiter leurs enfants, tous leurs enfants, très bien. Eh bien, elle va découper son activité en plusieurs segments. Elle aura des activités traditionnelles auprès de femmes qui peuvent payer un certain prix, activités traditionnelles. Puis elle doit, par son but, s'adresser à des tranches de population beaucoup plus défavorisées. Elle va développer ce qu'elle est en train de faire, un nouveau produit en association avec la Croix-Rouge et les caisses d'assurance maladie en France. Ils sont en train de développer un nouveau produit comparable donc à ce que je vous disais tout à l'heure sur le yogourt. Bon. Et puis, par ailleurs, je peux avoir des activités philanthropiques, des activités de mécénat pour l'entreprise. Donc, vous voyez, on a une évolution de loger cette logique nouvelle, différente, au sein d'entreprises traditionnelles, pour moi, aura un effet par capillarité important. Ce que me disent les gens d'entreprise, c'est que ça induit aussi, avec votre fournisseur, avec votre client, un rapport nouveau sur cette activité-là, mais complètement nouveau. Ce n'est pas juste quelqu'un sur qui je dois tirer mon fournisseur pour avoir le prix le plus bas, hein, les fameux débats des Carrefour et autres quand ils parlent de leur fournisseur. C'est je dois en faire un partenaire pour ces produits-là. Hein, je ne peux pas le faire seul. Je dois m'en faire un partenaire pour concevoir le produit qui va pour arriver à ma prix, au produit performant. Donc c'est tout là le mode de raisonnement dans la chaîne qui doucement évolue et qui s'enrichit. Voilà. Je n'ai pas...
Ça vient commencer avec le problème de l'allocation des capitaux en public. Est-ce possible de comprendre comment le fait d'avoir des sociétés avec une mission sociale va influencer cette allocation aussi?
Oui. Oui, alors, si vous voulez, c'est une très bonne question. C'est que, évidemment, si mon actionnaire, lui, reste à... Et bon actionnaire, c'est pas seulement Monsieur Albert Frère, hein, c'est de tous, parce que par la mutualisation de notre épargne, les fonds, donc c'est de tous. Bon. D'une part, il faut que, effectivement, il faut que l'actionnaire accepte de demander, de ne pas avoir la même demande de rémunération du 15% à court terme. Hein, c'est ce que, éthique, ils ne prennent que des actionnaires qui restent à long terme. Donc, il y a une certaine maturité de l'actionnaire à rechercher. En pratique, comment ça se passe? Si vous voulez, on est quand même dans une phase intermédiaire hein, de transition. Bon, comment ça se passe? D'abord, ces retours-là, il y a 30 ans, on était très contents de les avoir. C'est récemment qu'on s'est emballé. Bon. Deuxième commentaire, la manière dont ça fonctionne généralement, c'est que vous avez des fonds, les fonds privés actuellement. La grande source du social business, c'est les fonds privés. Vous avez des allocations, Lazare, par exemple, les grandes banques privées proposent des fonds où il faut une allocation 90% traditionnelle, 10% dans ce domaine-là. Voilà. Donc, c'est une façon de prendre. Voilà. Bon, vous voyez, c'est des. Bon. Danone, le fait est qu'ils ont proposé à leurs actionnaires, les actionnaires ont accepté que 100 millions soient alloués à un fonds de dotation. Alors vous pouvez me dire, les gens qui disent, ben oui, mais c'est des calculs à long terme, parce qu'ils récupèrent là les pauvres petits enfants du Bangladesh, ils vont mieux vivre, et du coup, ce sont des consommateurs futurs. Pourquoi pas ? Le but d'ailleurs, c'est que ce soit des consommateurs futurs. Quand on dit à Linus, Danone profite de votre image pour faire plus d'affaires, oui, peut-être, très bien, mais enfin très bien. Ça, en attendant, il y a un nouveau produit qui est plus intelligent et qui est voilà. On n'est pas dans le domaine de la charité. Hein, on n'est pas dans le domaine du don. Ça c'est et ne le remplace pas. Il ne le remplacera pas. Et c'est très important de bien le comprendre. Alors évidemment, moi quand j'entends, là j'étais à la grande fête de M. Yunus il y a quelques temps, et puis je vois des gens qui se révoltent parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pas parce qu'ils ont une idée généreuse. C'est pas parce qu'on a une idée généreuse qu'on a une bonne idée, c'est pas parce qu'on a une idée généreuse qu'on va être efficace. Il y a là le filtre de l'efficacité nécessaire et indispensable qui est assez intéressant au moment où il y a une raréfaction de la ressource financière. Hein. Il y a là un intérêt. Et puis, il y a, alors de manière plus générale, mais je vais m'arrêter, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais tout ceci s'inscrit quand même, là j'ai des choses plus pratiques, mais s'inscrit quand même dans une autre façon de voir la relation économique, dans une certaine, enfin d'imaginer une économie plus de la relation plutôt qu'une économie capitaliste. Alors là, il y a toute une formation, je pourrais déboucher là sur une question de formation éthique indispensable, complètement absente. Moi, j'enseigne à Sciences Po, par exemple, ce qu'on va voir dans 20 ans va être pire que ce qu'on connaît maintenant. Parce que tous ces jeunes qui sortent de je vous assure que, à part ceux qui ont choisi le programme d'entrepreneuriat social, enfin, ils sortent avec une inculture éthique qui est frappante. Moi, quand je leur pose des questions, je faisais passer l'année dernière le concours de sortie, concours oral de sortie dans une des majeures. Et alors, ils leur décrivaient des schémas, etc., machin, Luxembourg, etc., c'est bien, avec des choses fiscalement un peu osées, puis on leur disait ça ne pose pas de problème moral. Alors c'était assez amusant. Alors ils sortaient de l'analyse du schéma, ils disaient oui, problème moral, fraude, enfin, frappez-leur tous les poncifs moraux, les pires, hein, mais en condamnant la chose complètement. Mais complètement cloisonné. Il y avait le raisonnement moral qui était en soi, bon, ben, si jamais ils ont un jour, on leur demande de faire un examen moral, ils le feront, mais alors de manière, la manière la plus conservatrice et la plus horrible. Mais en revanche, quand ils raisonnent, ils ne le font pas. Bon, là, il y a tout un travail à faire de reconstruction d'une éthique, bon, qui pour moi, enfin, c'est ce qu'on développerait là dans ce livre, l'éthique de la relation autrui, du besoin d'autrui, de la justification de mon activité par le besoin d'autrui. Enfin, il y a tout ça, ça c'est à faire, et ça c'est à... Et bon, qu'à partir du moment où je suis dans cette notion de relation autrui, il y a un sentiment moral qui peut advenir, hein. On ne distingue pas, c'était un peu mon propos justement, on ne distingue pas les gentils des mauvais, les ceux qui ont un sentiment moral, ceux qui ne l'en ont pas, mais il y a une aptitude, il y a d'abord une connaissance, une attention qui va à ces questions-là au sens très large, relation à autrui, hein, pas seulement relation plus pauvre, mais qui peut prendre de l'ampleur par la dissémination, par la connaissance d'expérience, et qui par la pratique, par l'habitude, par une certaine compétence, peut faire surgir un sentiment d'ordre moral. Voilà, alors j'avais dit qu'on fasse quelque chose d'interactif, et puis j'ai parlé infiniment trop longuement. Mais...
Non, mais c'est maintenant le moment vraiment pour discuter, parce que je pense que tout ce que vous avez dit suscite pas mal de questions, non seulement sur la pratique, comment le faire et jusqu'où aller, et surtout... Vraiment, il y a derrière votre propos une certaine tactique, en fait, de réforme du capitalisme. Je crois que vous l'avez bien dit, plutôt que d'opposer économie sociale et économie capitaliste, on crée un nouvel instrument qui va permettre de changer de l'intérieur, d'une certaine façon, l'entreprise capitaliste. Alors, une question, et après je le laisse à l'Assemblée, c'est essayer peut-être de clarifier un peu ce que vous entendez par capillarité. Comment est-ce que cette capillarité va se faire ? Est-ce que vous avez des exemples de comment la création d'une éventuelle entreprise sociale au sein d'une entreprise capitaliste ou à côté peut aider au changement de l'entreprise capitaliste
oui.
Et jusqu'où ?
Alors, je vais reprendre un exemple en l'approfondissant tout à l'heure. C'est par exemple la relation au... Ça, on me l'a souvent dit au sein de l'entreprise. Si je vais voir mon fournisseur, et ça fait 50 ans que je vois mon fournisseur en lui... fameuse réunion de fin d'année avant le budget où je lui tape sur les doigts en disant vos produits sont trop chers et puis c'est un... et puis on discute pendant un certain temps et puis on finit par obtenir un rabais bon si je vais voir cette personne en lui disant maintenant les mêmes personnes de l'entreprise parce que c'est quand même les mêmes personnes de l'entreprise ils vont lui dire bon on a tel projet à tel endroit tout à fait en termes économiques, encore très très mineurs par rapport au reste de notre activité. Mais là, on va avoir besoin de votre aide. On va avoir besoin que vous réfléchissiez à des solutions nouvelles. Voilà, on va avoir tel mode de distribution qu'on n'a jamais eu. Donc, il va falloir que vous me donniez, vous, un produit qui ait telle caractéristique, qui résiste à telle condition atmosphérique, qui est... Enfin, des questions vraiment nouvelles, bon, où je vais essayer... Bien sûr qu'il y a déjà un fournisseur qui a travaillé avec son client sur la conception de produits nouveaux, mais toujours dans des termes financiers extrêmement... La question étant de savoir qui supporte la recherche, quel engagement de commande on a. Là, on est dans un contexte très différent. J'ai un projet, il ne vous rapportera pas grand-chose ni à vous ni à moi, mais est-ce que vous êtes prêt à participer avec moi à la conception ? Et s'établit, ce qu'on me dit, et ça paraît assez logique, c'est que on perçoit l'autre d'une manière différente et beaucoup plus riche. On le perçoit dans sa plénitude, enfin, pas rentrer dans sa plénitude d'homme, et on travaille à côté de lui. Et ça fait, si vous multipliez ce type, c'est quand même ça, hein, c'est l'assèchement de la relation au sein de l'entreprise qui nous a quand même amené là où on voulait, c'est là où on est. Je crois que c'est pas autre chose, c'est l'absence de... on peut dire, j'assiste quotidiennement à des réunions, mais qui sont quand même d'une sécheresse. Je ramène tout le temps, même dans des endroits où je travaille quotidiennement, si je ramène tout le temps le comportement de l'autre à une motivation financière, ça induit toute une série, toute une logique après un moment. Alors que si je vais en sens inverse et que je ramène, et là je vais en sens inverse forcément, par un petit bout, par un petit projet, mais auquel j'associe des quantités de gens. Et ce que me disent les gens, parce qu'il y a maintenant un projet, il y a des projets chez Saint-Gobain, enfin, il y a pas mal de grandes entreprises. Je parle beaucoup des grandes entreprises, alors que social business, c'est aussi des initiatives individuelles, hein, mais comme on parle un peu de réforme du capitalisme, c'est pour ça que je me situe plutôt là. Tout le monde est amateur et demandeur pour participer au projet d'une façon ou d'une autre. Il y a un élan très fort. Après, encore une fois, ne tombons pas dans l'angélisme, il y a des questions techniques extrêmement compliquées. Les mêmes qui étaient très, très favorables au projet peuvent ensuite l'être un peu moins quand ils voient que le projet est une vraie réussite. Vous savez, il y a une société qui s'appelle Nutricept qui a mis au point une pâte alimentaire absolument extra, avec un organisme français dont j'oublie le nom maintenant, qui est une ONG qui le distribue. Et par l'information qu'elle a eue par l'ONG, ils ont fait une joint venture ensemble, mais c'est eux qui ont le brevet, c'est l'entreprise Nutricept qui a ce brevet d'un produit assez révolutionnaire en termes nutritionnels qui évite de mettre les enfants sous perfusion. Bon. Et donc, l'ensemble de l'ONG a demandé à avoir accès à ce produit. Mais pas et donc, il y a un vrai problème maintenant. Qui détient le brevet ? Et l'entreprise, là, se retrouve dans une situation un peu particulière. Bon. Donc, il y a aussi des questions derrière extrêmement compliquées, des quantités de questions nouvelles extrêmement compliquées. Hein. Voilà, là, cette capillarité, voilà comment elle peut se faire. Je pense que aussi à partir du moment où je vois encore une fois chez Danone tout ce que ça a, ils ont à partir de là lancé des projets avec leurs fournisseurs, les propriétaires de vaches, des producteurs de lait en Ukraine où ils ont maintenant un projet là-bas. Ils ont ces générateurs parce que tout le monde du coup a une idée. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui maintenant vont viennent spontanément à HEC. Il y a ce qu'ils appellent un action tank en France. qui aident les entreprises à concevoir ce genre de projet, les entreprises qui viennent en disant, bon, écoutez, on a envie d'en faire un, on ne sait pas très bien quoi, mais aidez-nous à le faire. Donc, je crois que cette... Aussi, on n'en a pas parlé là, je pense que ça induit une nouvelle forme de gouvernance. Je pense que ça induit une nouvelle forme de gouvernance qui permet, si vous voulez, de remonter jusque dans la salle du Conseil des problèmes nouveaux. Mais ça, c'est encore un autre... voilà. Pardon, il y avait une question. Non, j'avais vu un bras qui s'est levé. Si,
oui. Christophe, je sens très fort, c'est un exemple qui est très beau, mais j'ai une difficulté à me rendre compte quelles sont les conditions, quels sont les facteurs que ça va se répandre, que ça va se répliquer ailleurs. Parce qu'on parle d'un modèle ici sur base d'un exemple, mais je ne comprends pas la logique qui fait que dans une entreprise autre que Danone, on va soudainement suivre cette logique.
Mais si vous voulez, suivre cette logique, vous voulez dire lancer ce type de projet.
Oui, c'est ça, ouais. Parce que l'hypothèse que je prends, c'est que l'entreprise économique qui a un but de profit va initier des projets sociaux.
C'est ça. Le projet à but social.
Et oui. Alors, ma question, et je crois que c'était un peu la question de Laurent, c'est quel est le modèle qui fait que ça va transformer, ça a un rôle transformateur dans l'économie?
Mais, si vous voulez, parce que je crois que vous ne pouvez pas transformer radicalement, hein, mais si vous réenrichissez le raisonnement, la manière de vivre mon entreprise tous les jours, je ne pourrais pas, si j'ai ce type d'entreprise se développe, et elle se développe en fait extrêmement rapidement actuellement. Hein. En Angleterre, les CIC, la loi date de 2005, il y en a 5200. 5200 qui fonctionnent.
Je veux dire aux CIC, parce que là justement, il y a des conditions très précises par lesquelles ils fonctionnent et qui empêchent justement qu'il y ait des départements de bénéfices qui se...
Oui.
En dehors de la société.
Oui, enfin qui la limite, qui ne l'empêche pas, qui la limite. Hein.
Non, mais vous parliez de...
Limitation du dividende, l'asset lock. Oui, c'est ça.
Et également, donc, du fait qu'il y avait des contraintes qui ne permettraient pas à des actionnaires de bénéficier par d'autres.
Absolument.
Et vous parliez de votre palette de couleurs. Et que pour peindre, il faut avoir des belles des couleurs bien définies. Et à la nuit, je me dis, tiens, ça, c'est un beau modèle. On a un modèle là qui peut fonctionner, qui a une intégrité, qui peut se développer, mais n'existe pas ici. Et vous nous parlez justement d'un exemple qui semble être un mélange et une illusion.
C'est un peu ça. Alors,
il pourrait exister ici à l'initiative d'actionnaires. Mais ce qui me frappe aussi dans tout ce qu'on dit, c'est cette déconnexion ou méconnaissance des actionnaires du projet de l'entreprise.
Oui. Ah oui, mais ça, c'est un...
Là, il y a vraiment quelque chose de dramatique, je trouve.
Oui. Alors ça, c'est le développement des marchés, le développement des produits dérivés qui a permis cela. Oui. Qui a permis cela. Mais vous savez, ça n'est pas à... en soi, ça n'est pas une mauvaise chose. La fluidité des capitaux est une bonne chose. Il ne faudrait surtout pas qu'on... Si vous voulez, c'est parce que des éléments ont, dans un contexte donné, eu un effet défavorable, qu'il faut remettre en cause l'élément lui-même. La fluidité je vais revenir à votre question dans un instant. La fluidité des capitaux est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans les projets de social business, on commence à utiliser des techniques assez sophistiquées financières. Après, c'est une question d'application avec une vision qui n'est pas celle du profit à court terme.
Oui, mais qui pourrait être apportée par les actionnaires. Nous avons en Belgique encore un tissu d'entreprise familiale, à actionnariat familial très important, mais bien sûr, pas généralement. Petites, moyennes entreprises. Et là, il y a cette opportunité d'amener une vision, d'amener des objectifs différents qu'on ne retrouve absolument pas dans une grande entreprise.
Ouais,
il n'y a pas de chemin pour
bien sûr, ça. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. On n'a pas eu les dérives dans l'entreprise moyenne. On a eu beaucoup moins ces dérives. Bien sûr. Je bats de là, bien sûr.
Donc là, il y a un trou. Enfin, il y a...
Oui, il y a un chaînon manquant. Parce que, malgré tout, l'arbitre final est toujours l'actionnaire.
Oui. Oui.
Et c'est un peu...
Enfin, l'arbitre final n'est plus l'actionnaire. L'arbitre final est le marché, je dirais. Ce n'est plus tout à fait l'actionnaire, c'est le marché. C'est le marché.
Pourquoi faut-il subir la loi des marchés sans mettre ça en question ?
Il faut
me paraît absolument incompréhensible.
Mais oui, mais...
Si on change les règles du marché, on peut changer beaucoup plus et beaucoup de façon beaucoup plus radicale.
Ouais, je
pourquoi est-ce que cette dictature est vraiment une dictature ?
L'idée fondamentale, mais comment changer les règles du marché ? Qui tient encore les règles entre guillemets du marché ? C'est à la base de tout ce cycle hein, qu'on mène, c'est la théorie de Benoît Friedman qui dit qu'on n'est plus dans un système régulé par un État ou des États, mais un système où on a la co-régulation, c'est-à-dire où la régulation n'est pas l'apanage dans des États, mais résulte de l'interaction entre les acteurs, et de manière beaucoup plus forte et imprévisible que dans le passé. Et ça rejoint, je pense, ce que Daniel Hurstel a dit. Et alors, ça nous amène peut-être aussi à répondre indirectement à ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, et je pense que vous l'abordez aussi dans votre livre, Daniel, c'est l'importance de la reconnaissance et de la réputation comme instrument régulatoire.
Oui.
Il suffit qu'il y ait, je dirais, comment on appelle ça, les agents de notation toussent un petit peu pour que... Il y a des mois qui se passent. La dictature vient de ces firmes
de notation. Non, je ne suis pas tout à fait. Je suis pas tout à fait de votre avis. Je n'incriminerai pas le marché. Le marché, c'est. Non, je n'incriminerai pas le marché. Le marché, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Vous savez qu'on a une. Les marchés, ça n'est. Avant, il y avait la bourse de Paris, la bourse de Londres, la bourse de New York, la bourse de Bruxelles. Enfin, c'était. Puis même, vous aviez plusieurs bourses en Belgique. C'était des organismes un peu compliqués, un peu opaques. Aujourd'hui, c'est sur des plateformes informes. C'est de l'informatique. Simplement de l'informatique. Hein, et d'ailleurs, les opérations financières ont beaucoup migré des anciennes bourses, puisqu'il y a maintenant des grandes, toujours sous l'égide de Bruxelles, vers des plateformes de transactions. Plateformes de transactions, c'est de la pure informatique. La pure informatique. Je rentre mes données, elle les traite, et quelqu'un d'autre rentre ses données et elle les traite. Ce qui apporte, c'est la donnée que je rentre. C'est-à-dire que la dictature du marché...
Il y a plus de résultats, parce que si vous dites, on rentre des données et puis il les traite, le mécanisme le traite dans une certaine...
Non, il les match, c'est tout. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il les match. C'est-à-dire qu'il compare l'offre et la demande. Le problème, un hedge fund qui va nous faire... qui va nous faire à cause d'un problème de régulation. Vous avez une grande fusion en Belgique, et puis ils pensent que du point de vue, je ne sais pas, on est dans l'armement, et parce qu'il y a une règle, on est dans l'armement, et parce qu'il y a une règle, il y a une loi de Belge qui dit que pour acquérir ce dernier armement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein, le hedge fund, parce qu'il y a une loi sur l'armement quelque part en Belgique qui fait que l'État doit donner son autorisation. Ils pensent que la fusion ne se fera pas ou se fera dans des conditions différentes de celles que les acteurs ont pensées initialement, parce qu'il sait que le ministre belge de la Défense n'est pas pour l'opération, et donc il se dit qu'il va y avoir une disparité pendant quelques jours. Il y avait une disparité, donc il intervient. Donc il va rentrer un ordre qui est dicté par cette information qu'il a. D'accord ? Et il va ainsi agir, parce qu'il a il peut trouver des capitaux, solliciter des capitaux extrêmement importants. En peu de temps, il va agir sur le cours de bourse et sur l'opération elle-même. Et vous remarquez d'ailleurs que chaque fois que vous avez une fusion un peu importante, l'ensemble de l'actionnariat traditionnel disparaît et est remplacé par des fonds, par des hedge funds. Bon. C'est dans des proportions gigantesques, hein. Ça va parfois jusqu'à 70%. Donc le problème, c'est l'information qui est rentrée, c'est pas le marché. C'est la première remarque que je ferai. Deuxième remarque que je ferai, c'est que le régulateur, moi je m'en méfie énormément. Je m'en méfie énormément, même en matière de co-régulation. Si vous voulez, tout ce qui est quand même intéressant, c'est que toutes ces interventions des dernières années, dans le domaine des marchés financiers et surtout de la comptabilité, ont allé dans le sens d'un court-termisme encore plus fort. Le fameux mark-to-market. Mark-to-market, je passe une seconde, parce que c'est vraiment intéressant ça. Le mark-to-market, c'est quoi ? C'est l'obligation pour une entreprise, quand elle close ses comptes, de valoriser chacune de ses participations à la valeur de marché à l'instant de la clôture. Donc, qu'elle soit prête à garder le bien 5 ans, hein, exactement au cœur de ce dont on parle là, ou pas, c'est le elle donne le mark to market. Donc, elle doit donner la valeur à l'instant T comme si elle le vendait. Donc, on est dans le court-termisme. Donc, le régulateur, à l'époque, quand cette règle du mark to market a été, et ça c'est de la co-régulation, puisque c'est de la co-régulation le mark to market, enfin c'est des comptables de l'entreprise, c'est pas un État. Quand le mark to market est sorti, on a pensé que c'était un grand progrès. On a pensé que c'était la transparence, que c'était un grand progrès. C'est pour vous dire à quel point nous étions quand même dans l'erreur. Tout le monde, tout le monde a salué le mark to market. Aujourd'hui, tout le monde le critique et tout le monde l'a salué. Tout le monde a salué, tout le monde a dit ça va vers la transparence. Transparence, moi je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon. Ce qui compte, c'est la conviction, ce n'est pas la transparence. Il faut avoir des convictions pour agir, pas être transparent. Mais toutes les règles, la règle sur les repos aussi, dès que vous avez une régulation, autrement dit, je pense que le vrai problème, c'est d'inverser un peu les priorités. Il faut que d'un bout à l'autre, les patrons de PME dont vous parliez, surtout quand elles étaient un peu importantes, ils étaient fondamentalement choqués par le mark to market. Fondamentalement choqués. Dès lors qu'il y avait un vrai bonhomme qui dirige l'entreprise, fondamentalement marqué. Parce qu'il savait que son actif, un contrat de swap, il a fait contrat de swap, il a perdu beaucoup d'argent sur un contrat de swap. Mais il sait qu'il va jusqu'au débouclage. Donc, et il a dans ses comptes, je ne sais pas, 100 millions sur la crise, 100 millions, 200 millions, 300 millions de pertes à cause d'un contrat de swap. Pas vrai, parce qu'il doit le sortir à la règle de mark to market. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas qu'il y ait quelque part un acteur ou un régulateur qui soit néfaste, et ni le marché non plus. Je pense qu'il faut que doucement, tout doucement, parce qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, on revienne, on inverse les priorités. L'industriel du passé, c'est pas celui-là qu'il faut retenir, mais il ne prenait pas ses décisions en fonction de son cours de bourse. Il prenait ses décisions en fonction de son activité industrielle. Il faut que nous...
Et donc, par les régulations, vous pouvez commencer à mettre l'accent sur les performances à long terme.
Tout à fait, bien sûr, par la régulation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'incriminais pas le marché en tant que tel. Mais bien sûr que par la régulation, mais simplement, bien sûr, vous pouvez. Mais je dis, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de la question. Soyons prudents, parce que jusqu'à maintenant, la régulation prise vite a toujours été une régulation, la régulation prise à chaud a toujours été mauvaise. Parce que je surréagis par rapport à quelque chose qui vient de se produire. Donc allons doucement en fonction d'objectifs plus lointains. C'est mon seul propos sur la... Et attention aussi, si vous voulez, ce que moi j'aime bien, par exemple, dans ce profit qu'on met au service d'un but, c'est une notion qui me paraît à terme plus riche, plus riche que, par exemple, tout ce qui est répartition obligatoire du profit. Au moment de la crise... En France, par exemple, notamment, le président Sarkozy a dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait un tiers de profit qui aille là, un tiers de profit qui aille là. Bon, on ne sait rien, je ne sais pas si c'est un tiers, je ne sais pas si c'est 40%, je ne vois pas pourquoi lui déciderait. Je trouve qu'une notion, plutôt que cette répartition autoritaire de la création de valeur, bon, c'est la création de richesse, moi, ça ne m'inspire pas beaucoup. Rediriger l'activité économique vers quelque chose de plus riche que le profit. Je reconnais qu'il y a, je vois bien votre question, il y a quelque chose d'un peu, on va pas dire d'utopique, parce qu'on a des réalisations qui sont pratiques. Il y a quelque chose d'un peu à long terme. Mais je dis, mettons le verre dans le fruit, si je pouvais le dire. Je pense que là, et je vois, c'est pas je pense, je vois que l'effet en est très fort.
Si je reprends par le titre du bouquin, donc réformer le capitalisme. Ouais. Est-ce que c'est limiter les risques de dégâts de certains types d'entreprises? Et dans ce cas-là, je ne pense pas que l'économie sociale ait pour but de faire ça. Ouais. Elle avait un but plutôt de donner un service complémentaire à ce que en fait, d'autres structures ne permettaient pas de faire. Elle ne voulait pas créer des entreprises, elle voulait apporter un service ou des solutions sociales. Absolument. Et donc, on compare en fait, un système d'une structure... donc une entreprise qui avait un but effectivement capitaliste ou économique, et puis en fait un autre type d'organisme qui voulait résoudre un problème de société. Et moi, je crois que ces deux choses, ces deux débats quasiment différents. Effectivement, aujourd'hui, on en parle, on en discute, j'étais encore il y a deux jours dans une autre conférence, justement de la partie adverse, si on peut dire. Et en fait, moi je crois que si on scindait le débat entre quels sont tous les moyens pour pouvoir résoudre les problèmes, en fait, les dérives des structures d'entreprise, hein, donc en termes finalement de, est-ce qu'il faut des canevas, est-ce qu'il faut diminuer la grandeur, interdire d'avoir des grandes structures, par exemple, ou quel est le lien avec, l'actionnariat, est-ce qu'on peut créer de l'actionnariat, est-ce qu'on doit arrêter ce système-là ou pas. Voilà, ça c'est un questionnement, me semble-t-il, et donc là on peut à ce moment-là reprendre la réflexion et les structures de l'économie sociale, hein, en termes de mode de fonctionnement et ainsi de suite. Soit on parle de la finalité et de la réponse que en fait la structure doit ou veut apporter à la société. Et dans ce cas-là, soyons provocateurs, est-ce que tout organisme, quel qu'il soit, donc de personnes qui se mettent ensemble, ne doivent pas avoir un questionnement sur les conséquences que cet organisme a sur la société?
Vous avez...
Donc à ce moment-là, on parle d'un autre angle, c'est quels sont les défis de société qu'on a aujourd'hui à résoudre. Est-ce que des structures de type entreprise peuvent apporter, oui ou
bien
non,
sûr,
une contribution?
Bien sûr.
Excusez-moi, je vais encore faire le dernier lien. Et pour moi, le lien, c'est que chaque personne puisse se remettre en phase avec ses valeurs. Et que donc chaque personne soit simplement re-questionnée sur est-ce que vous ne perdez pas du temps dans votre activité économique de ne pas être en phase avec vos propres valeurs.
Je vous suis tout à fait. Je ferai juste. Non, mais je n'ai rien à répondre à ce que vous dites. Je voudrais juste revenir. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. La différence. Je voudrais juste revenir sur la première branche de l'alternative, qui n'est effectivement pas ma question et que je pense qui est une impasse. Parce que je ne sais pas comment on déciderait. Je dirais simplement que les instruments de l'économie sociale ont aussi connu leurs dérives. De la même façon, quand vous prenez les banques coopératives et les banques mutualistes, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, je ne sais pas ici, elles ont couru leur statut de coopérative, ne les a absolument pas mis à l'abri. Parce que dès lors qu'on atteint une certaine taille, la réalité de la coopérative est assez bon. Et donc c'est effectivement cette réflexion. Me paraît pas être la bonne, et je vous suis tout à fait, c'est la deuxième manche d'alternative qui va là, mais l'activité économique, pourquoi, c'est bien par la finalité qu'elle est justifiée, donc je vous suis tout à fait, totalement. Et qu'au bout du compte, mais ça, bon, j'ai pas pu aller jusque-là, la question qu'il faut se poser, c'est la question de chaque individu que vous posez, vous avez parfaitement raison. C'est le point d'aboutissement du raisonnement et c'est le point de départ de l'action.
Parce qu'en fait, c'est par cet angle-là qu'il se passe des choses aujourd'hui. C'est parce que des personnes dans l'entreprise font cette démarche d'être liées à leurs valeurs, qu'ils prennent des initiatives, j'ai envie de dire, à l'insu des actionnaires.
Et ils n'en sont jamais passé autant qu'en ce moment. Ça, c'est le point positif.
Et c'est là où le côté contamination peut fonctionner.
Oui, voilà. Oui. Et ça, moi, je la vois, mais c'est sidérant. Je la vois très vite. Moi, je pense que bien avant l'expiration de ma durée de vie professionnelle, je vais voir le lien entre les deux. J'ai pas beaucoup de doutes.
J'ai un petit exemple comme ça d'une personne, un directeur dans une grande chaîne d'hôtellerie qui, ayant son deuxième enfant, en fait, s'est dit « je ferais bien à commencer à agir » et bon, par rapport à l'angle environnemental, parce que c'était sa conviction, son combat personnel. Et donc, il a demandé l'autorisation donc au niveau supérieur de pouvoir en fait développer une activité d'une hôtellerie écologique. Mm-hmm. Donc, il a reçu l'accord, heureusement. Et donc, il a mis au défi son équipe, mais ses fournisseurs, justement. Mmh, mmh. Et notamment pour faire des cartes magnétiques en bois, par exemple. Et puis, ses fournisseurs, on lui a dit, mais ça ne va pas la tête, vous prenez pour qui? Et avec le temps et la motivation et le challenge, en fait, ça a motivé tout le monde. Les défis ont été atteints. Et cette chaîne, en fait, est tout à fait autonome aujourd'hui. Elle fait des milliers de lits. Et ça a permis à des gens de se rendre heureux et en phase par rapport à un défi sociétal. Mmh, mmh, et économiquement, ça fonctionne.
Bien sûr, il est important que ces expériences soient connues et disséminées. Vous aviez une question, monsieur ?
Oui, une question. Il y a des éléments, je pense que des structures comme les CIC sont extrêmement intéressantes en ce sens qu'elles répondent à un besoin ou à une demande. Il y a une demande politique ou au sens général dans la volonté publique de faire autre chose que gagner uniquement de l'argent ou que d'investir. Donc on a inventé de nouveaux cadeaux pour des choses qui existent depuis longtemps, qui sont un mode de structuration des volontés philanthropiques, c'est un vieux mot, mais je crois qu'il est dans les statuts des CIC, qui qui offre de nouveaux canaux, donc de nouvelles manières pour ceux qui le désirent de se manifester dans ce secteur de l'économie sociale. Quand vous dites, quand vous prenez comme programme que cette économie sociale peut modifier le capitalisme, je me demande s'il n'y a pas des raccourcis. Je crois qu'il y a un espace de développement d'une économie sociale parce qu'il y a une demande qui est une demande de l'ordre de la conscience, de l'éthique, de l'écologie, peu importe, qui va dans ce sens-là et qui ne peut pas être entièrement satisfaite dans les mécanismes de marché d'entreprise habituelle. Mais je me demande si on ne peut pas raccourcir lorsqu'on parle de réformer le capitalisme, au sens où pourquoi dire le capitalisme et ne pas dire le secteur financier de l'économie ? S'il y a une chose dont je m'étonne qu'on la trouve peu dans la critique actuelle, on sait que la crise est financière, on sait où est sa racine, on connaît les histoires des traders, et on continue à tenir un discours générique sur le capitalisme, l'entreprise, la société cotée en bourse, cotée par action. Est-ce qu'il ne faut pas faire un raisonnement d'économiste, qui n'est pas directement lié à l'aspect économie sociale, mais c'est lié à l'aspect régulation, qui est que je sais bien qu'en économie, l'argent est un moyen de production, soi-disant, comme les autres, et qu'il a appris qu'il y a le taux d'intérêt, que donc il peut s'échanger, et que ce raisonnement-là fait qu'on ne fait plus la différence entre le pétrole et l'argent. Or, l'argent, malgré tout, est d'une nature différente, philosophiquement complexe à cerner, socialement complexe à cerner, et qui fait qu'on a vu maintenant que le fait de le traiter comme une commodité, comme matière première ou moyen de production comme les autres, peut entraîner des catastrophes. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est le bon sujet de remettre en cause le capitalisme tout ensemble, dans son ensemble, de vouloir le réformer par une économie plus éthique, plutôt que de dire finalement le capitalisme, les entreprises cotées en bourse par action ne fonctionnent pas si mal, sont, on peut en discuter, optimales dans beaucoup de points de vue, et qu'il y a un secteur particulier de l'économie qu'il faut avoir le courage de nommer, qui sont les spécificités de l'économie du secteur financier.
Écoutez, oui,
le secteur anti-régulation est très dangereux, parce que de la même manière on parle de réformer le capitalisme, y compris par l'équipe de finance, on dit le capitalisme en général, on utilise le même discours pour dire on s'oppose à la régulation. Mais la régulation est dangereuse, complexe, peut faire plus de bien que de mal. Il faut revenir à des notions d'économie assez fondamentales, qui est le caractère particulier de la monnaie. La monnaie, on le sait, est basée sur la confiance. Si ce n'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on passe d'une monnaie basée sur la confiance vers une monnaie basée sur la foi. Il faut peut-être s'interroger à ce moment-là, effectivement, sur la responsabilité des États et du gouvernement, sur les aspects de régulation, mais assez spécifiques.
Écoutez, D'abord, merci de tout ce que vous indiquez. Sur le titre de mon livre, vous l'avez remarqué, il est inexact. Il n'est pas de moi. C'est l'éditeur dont je suis très fier d'être chez elle, qui l'a. Mais la nouvelle économie sociale, par définition, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur de titre et réformer le capitalisme est très pompeux. Mais on me l'a imposé en me disant, sinon il se vendra vraiment pas. Et puis comme j'étais content d'être chez l'éditeur, elle connaît son métier. À chacun le sien. Ceci étant dit, je suis persuadé qu'il faut changer l'objectif de la société. Vous ne pouvez pas dire ce qu'on dit actuellement à tout le monde, c'est vous voulez créer une société, votre but sera le partage des profits. Non, je pense que c'était très adapté aux deux siècles derniers. Je prends parfois l'image, nous étions devant un Grand Ouest américain, une grande friche, il fallait des gens pour les fricher qui se rémunéraient plus ou moins comme à l'époque moins heureuse des butins de bataille. Je pense que c'était un système adapté qui a montré sa puissance et je ne le critique pas, je dis qu'il est temps aujourd'hui qu'il est temps et qu'il y a suffisamment de création de richesses, pour en changer l'optique. C'est simplement un changement de perspective qui va lui donner un second souffle. Sur le capitalisme financier, enfin sur le monde financier, je ne pense pas que ce soit la régulation qui le changera. La régulation n'est pas arrivée. On verra que ce que fera Dodd-Frank, les 1600 ou je ne sais plus combien de pages. Il y a des gens... il y a des gens vraiment très 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 malins dans les banques, les très très malins, des intelligences incroyables. Enfin, ils arriveront. Plus il y a de réglementation, plus il y arrivera. Et encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, la régulation est nécessaire. Mais je ne suis pas un adepte de l'accroissement de la régulation. Vous voyez, il y a l'affaire, je ne sais pas, vous avez peut-être vu l'affaire Bernard Arnault Hermès, là, récemment en France, où Arnault est arrivé à prendre, LVMH est arrivé à prendre une participation dans Hermès en utilisant ce qu'on appelle des total return swaps. Et maintenant, on va interdire, ça n'a pas été interdit, il y avait déjà un précédent, Saint-Gobain, Wendel. Maintenant, on va interdire l'utilisation des TRS dans ce cas-là. Très bien, il trouvera autre chose. On trouvera autre chose. Le problème, c'est que ce type de... le problème, je crois que c'est ce que disait monsieur, c'est plutôt la finalité de l'activité économique. C'est la... mis à part que ce n'est pas un drame si Hermès n'est pas sous le contrôle de LVMH. Hein. Mais je me méfie parce que je vous dis, chaque régulation quand même crée... Moi, je suis un grand adepte du code civil, si vous voulez. Je suis adepte des thèses du doyen Carbonnier, certains grands principes dont l'application, des grands principes, mais dont l'application ensuite relève de chacun d'entre nous. Si vous commencez à réglementer les bonus des traders, évidemment que les bonus des traders sont excessifs. J'ai assisté à une discussion entre Raymond Soubi, qui est le conseiller social de président Sarkozy, et Oudéa, président de la Société Générale, au moment où sortaient tous ces systèmes de rémunération des bonus. C'était pas passionnant comme discussion, parce que c'était la seule réponse, la seule réponse d'Oudéa, c'était « je ne peux pas faire autrement parce que sinon je n'aurai plus les bons professionnels. Si je ne donne plus, ils iront ailleurs, ils iront en Angleterre, ils iront aux États-Unis. » Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les présidents des banques de différents endroits se mettent à peu près... voyez, il faut qu'il y ait une visée. Ce n'est pas juste de la régulation. Ça va plus loin que ça. C'est qu'on ait un but... commun, qu'on partage des convictions et qu'ensuite on prenne les moyens de les faire respecter par le mouton noir. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'on puisse résumer la dérive à la dérive du financier. Mais j'entends, c'est un domaine à part, c'est un domaine particulièrement sensible. Oui.
Une question un peu dans le prolongement sur le côté éthique qui m'interpelle toujours. Il y a en motivation éthique, il y a ce développement de l'économie sociale, c'est bien. On a vu dernièrement la saga Bettencourt en France,
oui.
Histoire de People,
oui.
Avec des chiffres de l'ordre de 40 milliards derrière.
Oui.
Personnellement, je n'ai pas tout lu, mais je n'ai lu aucun article d'un journaliste ou d'un commentateur qui rapproche l'intérêt général du public pour cette saga, ou qui mette ça en contraste avec la fondation Bill Gates, Warren Buffett et cette initiative de milliardaires américains, très intéressante parce qu'elle ne demande aucun changement systémique, qui simplement, nous, on est prêt à donner une grosse partie de notre fortune à des fondations qui font bien leur travail et qui agissent pour le bien commun. Est-ce que c'est de nouveau une différence, une position entre le pragmatisme anglo-saxon et le légalisme cartésien, ou comment est-ce que vous voyez ça ? C'est pas mal, c'est difficile à critiquer, la Fondation Gates, à ma connaissance.
Non, c'est difficile. Non, mais le, si vous voulez, d'accord, mais la schizophrénie américaine qui est pendant 20 ans, je m'enrichis énormément, et puis pendant les 20 années suivantes, je redonne cette fortune à ceux qui en ont besoin. Moi, je pense vraiment qu'on peut aller plus loin que ça. C'est très bien, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Je pense que. On peut, si c'est pour réparer, si je simplifie, caricature le propos, si c'est pour réparer pendant les 20 les années suivantes les méfaits de l'exploitation que j'ai faite effrénée auparavant, je ne dis pas que ce soit le cas de Bill Gates, mais l'exploitation effrénée d'une entreprise, vous voyez, réparer ce que j'ai fait, le dommage que j'ai fait avant. Non, je ne dis pas que c'est ça qu'ils font, mais ce qu'on voit, non, je ne dis pas que c'est ce qu'ils font, mais je pense qu'on peut avoir un système plus sophistiqué, plus intéressant que. Va et vint. Je pense que je peux amener une. Non, mais. Je pense que. Enfin. je pense qu'on peut aller au-delà de ça et je pense qu'on peut amener les préoccupations de M. Gates dans Apple 20 ans plus tôt. Et je pense qu'on peut arriver à avoir des choses du coup beaucoup plus homogènes.
Oui,
Microsoft. Oui. Je pense qu'on peut... voilà.
Oui, mais je dirais, au même titre, c'est quand même un mouvement assez radical où il s'associe avec d'autres philanthropes pour se mettre d'accord que, je crois que c'est 90% de leur fortune soit redistribuée de leur vivant des vivants
on touche vraiment à autre chose. Là, on touche, de toute façon, vous savez qu'ils sont contre l'abolition des impôts de succession. Hein. Mm-hmm. Contre, estimant qu'il faut contre l'abolition. Estimant que ce n'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même culture, en disant que chacun doit refaire sa fortune. Bon, très bien, mais c'est pas non plus les mêmes fortunes que celles qui sont. Bon, il y a Madame Bettencourt. Oui, j'ai pas d'idée sur Madame Bettencourt. Elle a son argent, ce sont des actions de société. C'est un cas très terriblement atypique, c'est pas de l'argent liquide. Hein. C'est maintenant qu'elle mette cette fortune dans une fondation et que les profits de cette fondation servent à des actions d'intérêt social, bah, ce serait très très bien.
Personne n'a fait remarquer, par exemple, soit vous en voulez un gigolo qui m'a pris 1,5 milliard, c'est pas moral d'abuser d'une vieille dame. Par ailleurs, je trouve quand même que la moitié de mes avoirs peut servir à quelque chose d'utile. On a accepté la saga People Value.
Elle donne beaucoup. Hein, beaucoup. Non, mais elle donne, j'en sais rien, moi je ne suis pas dans les.
Les chiffres ont été publiés.
De ce qu'elle donne, de ce qu'elle donne. Elle donne à différentes fondations. La fondation L'Oréal, ça existe. Elle donne. Enfin bon, là on rentre dans des. C'est la liberté de chacun. Si vous voulez, moi je suis plus intéressé par l'activité de L'Oréal. Qui, pour le coup, est une activité sans grande valeur ajoutée. Quand vous regardez comment les marques de L'Oréal sont gérées, quand vous regardez la logique de l'entreprise, c'est très, 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 très rude. C'est très, très rude. C'est fondé sur du marketing, c'est du marketing. Enfin, c'est très, très rude. Hein. C'est, pour le coup, d'une entreprise sèche, c'est assez... Donc, je m'intéresse plus à ce sujet-là. Moi, je ne vais pas donner des leçons à Madame Bettencourt sur ce qu'elle devrait faire sur son argent. Elle pourrait peut-être m'en donner aussi, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez plus, c'est... et là, ça doit être particulièrement compliqué quand on parle de cosmétiques et autres pour arriver à trouver... Enfin bon... Mais c'est des mastodontes, c'est très... Enfin, pour moi, les sujets de L'Oréal sont de vrais sujets, plus que ceux de Madame Bettencourt. Bon.
Par rapport à Microsoft, moi, je pense que s'ils voulaient vraiment aider, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils enlèveraient le monopole qu'ils ont pour aider les pays en voie de développement à pouvoir avoir accès à... donc, je veux dire, donner 90% de la fortune, ok, c'est bien, machin, truc, mais je pense que s'ils voulaient vraiment aider, c'est plutôt ça qu'ils feraient.
Mais ça lui appartient pas. Ah si, ça lui appartenait. Enfin, il avait un. Alors, en tout cas, c'est ce sujet-là auquel je m'adresse plus que le problème de la du don qui est un autre sujet qui est un peu pour moi moralisateur. Enfin, si vous voulez, j'intervenais dans les pour moi. Mais enfin, c'est un autre sujet celui-là.
Sur la dérive.
Mais sur l'argent, il faudrait réfléchir à la notion de l'argent. Effectivement, il y a une vraie question sur le rôle de l'argent. L'argent est instrument d'échange, instrument de spéculation. Là, il y a un vrai... ça, c'est un autre débat, mais qui est important. Oui, pardon.
Sur la dérive, en fait, vous ne pensez pas que c'est aussi... Enfin, l'emballement, on va dire, de vouloir un coup 15% de retour, c'est... Enfin, j'avais l'impression que c'est aussi lié à la chute du mur, dans le sens... la crise financière qu'on a eue l'année dernière, en ayant toujours les rouges, on va dire, de l'autre côté, je suis française, je pense qu'en France, le Parti communiste aurait gagné beaucoup de voix très 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 vite. Là, on n'a pas de contre-modèle, et donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin non plus de faire dans la demi-mesure.
Oui, ça a été certainement qu'il n'y avait plus de... C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réflexion économique, que toute personne qui n'était pas partisan de la fameuse main invisible n'était pas écoutée. Si vous voulez, c'est pour élargir le propos, je dirais que c'est l'absence de doute. Ce qui, moi, me frappe dans les prises et décisions économiques auxquelles j'assiste, c'est toujours l'absence de doute, c'est l'absence de contestation. Il faut qu'on réinvente une gouvernance qui amène le doute. Le doute, je peux l'amener, je ne l'aurai que si je regarde l'autre. Je ne l'ai que si j'essaye de réfléchir aux besoins de l'autre. Si je pars de mes propres convictions, je n'aurai pas de doute. Si je prends en compte l'autre, j'ai forcément le doute, j'ai forcément la question. C'est en ça que cette inversion, si vous voulez, cette inversion de perspective que nécessite le social business m'intéresse beaucoup elle est empreinte de doute puisque je vais d'abord regarder le besoin de l'autre et le besoin de l'autre en fonction de lui-même, en fonction de son propre évaluation de son besoin et de sa propre évaluation de la satisfaction de ce besoin. Et donc ça m'amène dans un système de pensée à l'opposé de celui qui domine les conseils d'administration actuels. Il n'y a jamais de questionnement, il n'y a jamais de doute, parce qu'il y a une logique qui est forte. Tout le monde sait qu'il y a une logique qui est parfaitement forte, qui est que, attention, si je sors mon résultat un peu plus faible là, et c'est ce que vous appelez la dictature des marchés, mes capitaux s'en vont. Et c'est là où il y a... Alors, après, le problème des... Bon, l'agence de notation, on pourrait y venir, et qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte? J'ai pas les réponses à toutes ces questions-là. Mais il est certain qu'on a moins de doutes quand on a vu que la force du capitalisme faisait même tomber le mur de Berlin. Enfin, ça accroissait encore indiscutablement la certitude.
Peut-être on a la chance d'avoir par exemple quelqu'un qui est vraiment dans l'entrepreneuriat social comme Alexander. Je vais te demander par rapport à ce que tu as entendu, comment toi tu te positionnes, comment toi venant d'une société de conseil traditionnel, t'es passé dans l'entrepreneuriat social. Comment tu réagis par rapport à ce que tu as entendu ce soir? Si tu veux bien évoquer brièvement ça.
Je vais bien partager avec beaucoup d'humilité parce que je n'en suis qu'au début d'un long chemin. Je pense que je ne suis certainement pas un exemple en tant que tel, mais en tout cas, je vis l'intérieur avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Une des choses qui m'a fort marqué, c'est le mot capillarité sur lequel vous aviez parlé tout à l'heure. C'est une des choses qui m'impressionne très fort, c'est lorsqu'on rentre dans un projet de ce type-là, l'énorme libération d'énergie que ça peut procurer chez beaucoup de gens qui sont dans des parcours, entre guillemets, classiques, et qui voient là-dedans une opportunité de recherche de sens qu'ils ne trouvent pas toujours dans le système, entre guillemets, classique, mais pas non plus parfois dans des modèles alternatifs du type associatif. Et donc, moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lancé un projet dans ce sens-là, c'est à quel point ça a pu libérer, par capillarité, énormément d'intérêts de gens qui ont trouvé une opportunité de recherche de sens. Et ça, c'est vraiment un phénomène que j'avais même sous-estimé au départ. Et s'ajoutant au niveau des gens qui sont d'employés, mais également au niveau de la force financière et des investisseurs. Parce que je me rends compte que ça ouvre aussi la porte à la rencontre avec des investisseurs qui sont dans des recherches de return qui se déclinent pas uniquement financièrement. Mmh. Et qui recherchent une vraie notion de return, mmh, mais à travers une notion d'impact. Mmh. Je pense qu'il y a, et c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui sont potentiellement ouverts à ce genre de démarche et qui n'ont pas toujours la rencontre avec le projet qui parvient à bien calibrer, mmh, une notion de vrai return et d'impact, mmh, et qui se retrouvent du coup avec une pile de dossiers qui sont entre guillemets des dossiers à return financier pur, et une autre pile de dossiers qui sont de l'ordre de la contribution à des associations. Et les deux sont très bien, mais il y a là au milieu un créneau qui est encore fortement, fortement sous-valorisé. Je pense par contre que c'est aussi un gros défi que d'aller dans cette optique-là, parce que dès le moment où on commence à définir la notion de return de cette manière-là, c'est beaucoup moins facilement, c'est beaucoup plus difficile à lire et mobiliser des équipes autour de ces objectifs nécessite énormément de clarté sur la manière dont on veut combiner différents objectifs. Et ça, c'est pas toujours facile. Et ça nécessite aussi, je pense, de s'inscrire dans une optique de temps, parce que dès qu'on veut aller dans des notions d'impact social, on peut très vite se retrouver dans des notions d'horizon de temps qui sont aussi très différentes de ceux qui dictent le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui, confrontée aux règles du marché à très court terme.
Merci de cette comme vous avez, comme tous les gens qui sont dans la réel, vous avez l'humilité de ces gens-là. Mais oui, moi j'entends bien tout ce que vous dites. Il y a notamment cette notion de return. D'ailleurs, sur la capillarité, je dirais une autre chose, c'est que ce qu'on commence à voir, c'est que les social business qui marchent bien sont rachetés par des entreprises traditionnelles. C'est assez intéressant. Il y a des exemples, c'est pas encore très fréquent, mais il y en a, parce qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs exemples relativement intéressants, parce que l'affaire réussit et des sorties par rachat d'entreprises traditionnelles. C'est intéressant. Sur l'appropriation du profit, vous disiez là il y a une case claire, la CIC, monsieur tout à l'heure. Oui. Mais moi, là encore, je pense qu'il faut donner le label à ces entreprises-là, mais rien n'empêche d'en faire une entreprise à but social qui n'a pas cette restriction-là. Simplement, il faut qu'elle l'indique à ses pourvoyeurs de fonds. Sur la notion de return de l'actionnaire, je pense qu'il y a là aussi, c'est des sujets un peu difficiles, parce que tous ceux qui participent au projet, c'est ce que vous disiez, libérateur d'énergie, il y a une certaine satisfaction de participer, il y a un plaisir de participer à un projet dont on sent qu'il est socialement utile. L'actionnaire, on lui demande un effort et lui, il ne participe pas. Il participe très indirectement, mais en tout cas, il est beaucoup plus loin que les gens qui travaillent dans l'entreprise, que les dirigeants, il est beaucoup plus loin de l'activité de l'entreprise. Et donc, tout ce qu'il voit, lui, si je simplifiais le propos, c'est qu'il voit son retour sur investissement diminuer. Il faudrait réfléchir à ce qu'il y a des réflexions dans ce sens actuellement. Hein. Comment l'intéresser davantage ?
Parce que, je pense que justement, évidemment, quand on est dans des structures de fonds qui sont des intermédiaires, etc., on dépersonnalise le lien avec le projet. Quand vous êtes dans des structures et des actionnaires qui sont des individus qui possèdent.
Vous pouvez. C'est plus simple. Voilà.
Je pense que cette connexion est quelque chose qu'on sous-estime complètement.
Ouais.
Ce sont des gens qui se voient en permanence proposer de nombreux projets avec schéma de return classique, mais ça ne leur donne pas une vraie identité et un vrai sens,
oui,
propre moyen de ressources. Et donc,
d'accord.
Ce paramètre-là, je pense qu'il est.
Mais vous voyez, c'est possible là, quand, si vous avez effectivement que l'un de l'autre est pourvoyeur de fonds que vous pouvez, enfin que vous identifiez. Mais il y a tout le problème des fonds, mais il y a des fonds qui maintenant, comme celui que vous évoquez, mais enfin il y en a pas mal, qui se mettent en place. Il y a aussi l'épargne salariale, hein, l'épargne salariale qui doit être investie chez nous en partie dans des projets de ce type-là. Il y a le problème de l'accès au pourvoyeur de fonds pour qu'il ait lui aussi, comment le faire participer à la satisfaction, si c'est une réussite de ce projet.
Quand on a discuté avec François Eval de ce genre de questions, il disait un des problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'entreprise traditionnelle, c'est précisément le fait que les actionnaires ont une responsabilité limitée à leur apport en capital. Oui. Et effectivement, quelque part, si leur responsabilité se limite à cela, il est plus difficile de les intéresser à l'impact, bien autre sûr, que financier, qu'à l'entreprise. Une première chose. Et l'autre, c'est évidemment la taille des entreprises. On peut évidemment être connecté à l'objectif sociétal d'une entreprise s'il est relativement petite, si on peut en être proche. Quand c'est des mastodontes tels qu'on les connaît, c'est très difficile effectivement de le voir.
Plus la volatilité, parce que
plus la volatilité,
on dépersonnalise complètement.
Oui, mais voilà, mais on ne réglera pas tout d'un coup, mais effectivement, sur des questions, bien sûr.
Mais ce qu'il y a alors peut-être là derrière, c'est. Par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est quel est véritablement le trigger, le moteur qui va permettre de disséminer cette logique par capillarité au-delà de la simple volonté de certains qui sont proches ou qui y sont déjà sensibles. C'est, C'est là que je ne trouve pas encore vraiment le...
Bah, c'est le enfin, allez-y, pardon.
Oui, mais je crois qu'il y a des exemples. Je crois que, par exemple, chez Anxerox, ils ont un projet de faire des photocopieuses qui ne se retrouveront jamais dans les décharges publiques, aucune des parties et aucun des produits qui sont utilisés. Donc, c'est une entreprise tout à fait commerciale et qui s'est donné un objectif vert ou écologique. Tout à fait rare, tout à fait réaliste, ouais. Et qui peuvent financer dans le contexte.
Oui. Et là, la pression, c'est.
Et dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas simplement, je vais dire, une façon meilleure de faire plus de profit, simplement en intégrant certaines.
Mais c'est déjà ça.
Mais vous lancez c'est déjà ça.
Mais c'est déjà ça. Et vous lancez, Laurent, vous lancez une direction que vous n'arrêterez pas. Okay. C'est ça qui est intéressant. Moi, je crois qu'il faut être très pragmatique. Vous lancez des directions qui ne s'arrêteront pas. Vous lancez. Et moi, frappé hein, par les gens que j'entends, que ceux qui sont en charge de ces projets, ils me disent, mais vous ne pouvez pas savoir, tout le monde va en faire partie. Tout le monde veut venir, veut dire sur ça. Donc il y a quand même, ça répond à un appétit. Je crois que c'est vraiment ça le mode de dissémination.
Oui.
Plus difficile au niveau de l'actionnaire.
Hein, ce que je vois, c'est que ça aussi, c'est limite. Dans le sens où, par exemple, à mon petit niveau, avec mes équipes, je sens très bien que, par exemple, par la démarche que j'ai personnelle et que j'essaye d'imprimer dans mon business, j'attire effectivement des tas de jeunes qui sont motivés par cela. Mais je sens très bien que ça ne peut pas aller... Enfin, c'est difficile de dépasser un certain seuil, ouais. Parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais attends, d'abord, ça reste le profit, etc. Et, » Donc, je vois que... Ça peut s'introduire.
Oui, mais Laurent, c'est justement là où je pense que ça reste le profit. Je pense que tant que le but sera le but de l'entreprise sera le profit, tant qu'on dit que vous pouvez constituer une entreprise que pour le profit, vous avez une logique qui est trop forte pour aller contre. Elle est trop forte. Donc c'est un autre moyen de l'attaquer. C'est en ça que c'est révolutionnaire est un mot trop fort, mais c'est peut-être. Mais c'est en ça que c'est très nouveau. C'est ça le point.
Pour moi, on se rejoint, c'est l'identité et le lien avec le sens. Enfin, l'identité individuelle et son lien avec le sens qu'on veut donner aux choses. Parce qu'en fait, il y a une rupture maintenant, qui a été faite, je ne sais pas quand, mais entre la personne qui travaille et la personne qui gagne de l'argent, ça n'a plus rien à voir. On sait qu'en fait, gagner de l'argent, ce n'est pas en travaillant. Donc, c'est déjà donc, il y a une énorme rupture. En fait, ce n'est pas le temps de travail et donc le courage... ou le temps qu'on passe dans une vie qui fait qu'on a de l'argent et donc on peut continuer à faire des choses. Mais l'identité aussi n'est plus liée avec le travail, puisque en fait il y a des vedettes qui gagnent de l'argent comme ça, à 25 ans ils sont multimilliardaires. Donc il y a une rupture entre le travail, l'argent et l'identité, et dans tous les sens qu'on veut. Et donc peut-être que l'élément qui va remettre le lien, c'est en fait... Comment permettre à chacun de retrouver une identité en se rattachant avec son sens.
Voilà. Et donc, exactement. Et qui n'est pas forcément le travail. Hein.
Que ça soit une boîte qui s'appelle.
Qui n'est pas forcément le travail. Il ne faut pas revenir en arrière.
Qui
qui n'est pas forcément le travail. Justement. Non, 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 mais voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est là où on ne va pas revenir forcément en arrière. Parce que les années 70, enfin, c'est pas forcément mieux. Donc c'est là où c'est tout à fait intéressant. Oui. Et c'est comment retrouver ce sens, et je vous dis qu'il n'est pas forcément arrêté à la notion de travail,
qui peut être
arrêté.
Voilà.
C'est ce que je pense dans l'activité, c'est ce que je pense absolument.
Mais ce que vous avez noté, et ça je pense qu'il y a un vrai risque, c'est que cette recherche de sens, qui effectivement est plus forte, on la sent, soit utilisée par les entreprises elles-mêmes. Pour mieux exploiter certaines personnes. Enfin, c'est toute la théorie de Luc Boltanski dans le livre L'esprit du capitalisme qui montre comment le capitalisme récupère cette volonté pour mieux, je vais dire.
Répondre. Regarde. Non, mais regarde,
il a toujours récupéré, c'est ça.
Enfin, encore une fois, je change. D'abord, il faut accepter les périodes transitoires, puis je change de finalité. J'insiste là-dessus. J'insiste.
Comment faire passer ça?
C'est ce que, en tout cas, modestement, c'est ce que j'essayais de vous. Je vous disais une voix qui me paraît prometteuse d'avenir.
Puis au niveau politique, il y a quand même des réflexions sur le fond aussi, hein, je pense, et je ne sais pas où elle en est, parce que je n'en entends plus rien parler, de la commission Stiglitz en France, dont le travail visait justement à essayer de trouver des critères de mesure de l'efficacité d'une entreprise autre que strictement financière.
Absolument.
Et il a fait appel, Sarkozy, votre président, a fait appel à un prix Nobel pour créer une commission. Je ne sais pas où ils en sont.
Si, il a rendu son rapport, mais pour l'instant, il a rendu son rapport, effectivement, mais ça n'a pas pour l'instant donné beaucoup plus. Écoutez, on verra ce que va donner le rapport de Madame Boutin sur qu'elle a rendu à Sarkozy. Donc, dans l'idée du G20, il y a des idées. Il y a un chapitre, il y a quatre grands chapitres, dont un sur le social business. Je suis arrivé, je peux vous dire que je suis allé carrément. Et elle a repris où elle propose notamment des idées de fonds qui seraient mis en place pour financer. Où elle propose pas mal de choses. On verra bien, ce sont ce que je répéterai, on n'a jamais vu autant d'initiatives intéressantes qu'en ce moment. Jamais, jamais. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives intéressantes et qui se développent, qui se multiplient très très vite. Il faut les encourager, je pense qu'à un moment donné, on sera le mouton noir, celui qui ne participe pas à ce mouvement. Donc il y a c'est quand même nouveau tout ça, c'est récent, la perception de l'entreprise. Je trouve que c'est un sujet, comment dirais-je, un concept. Ce sont là des concepts, encore une fois, changer la finalité, c'est un concept plus clair, bien plus intéressant, plus clair, donc à mon avis plus pouvoir produire des effets à plus long terme que ce concept assez mou que de la RSE, qui a des prolongements également intéressants, mais je pense que c'est un concept beaucoup plus fort. Voilà.
Est-ce que fondamentalement, c'est pas le ressort n'en est pas le même, et ce serait la réputation que les entreprises ont besoin de se préserver, précisément parce que.
Écoutez, quand chez Danone vous prenez 100 millions d'euros sur les réserves pour les allouer à un fonds de dotation, c'est pas une page de rapport annuel sur la RSE. Hein. Ils disent, c'est 100 millions qui ont été pris, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire tout ça, Danone le fait, je prends Danone parce que c'est plus simple, parce qu'on l'a pris plusieurs fois, le fait pour, in fine, accroître sa réputation. Peut-être. Non, mais que c'est la finalité des gens qui tiennent les...
Non,
j'ai une question, mais vous ne pouvez pas trouver une pureté
dans... Il va y avoir une pureté. Je dis simplement qu'en termes de mécanisme, c'est peut-être cela qui effectivement est l'aiguillon, si vous voulez.
C'est ça, c'est ce que je pense. Non, je ne pense pas. En fait, fondamentalement, non, mais enfin, je ne vois pas pourquoi j'hésite dans ma réponse. Fondamentalement, à partir de la motivation d'une personne à changer, vous ne pouvez plus arrêter cette personne. Personne, vous disiez tout à l'heure, au niveau de la régulation, en parlant de la personne, le contrôle des marchés, bien de la même façon, si personne n'a contrôlé la course vers le profit, personne ne peut non plus contrôler un souhait d'émancipation à partir du moment où... Où il connaîtra une diffusion suffisante. Voilà le pari. Voilà le pari.
Je crois qu'on peut rester sur ce pari. Je voudrais. Merci beaucoup, Daniel.